Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Mm. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Tant pis.
Bonjour et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Et en ce joli mois de mai, nous avons décidé de vous parler de l'un des plus grands drames du sport français, Séville 82. Des héros, deux grands méchants, de la violence, des retournements de situation, de l'espoir et le dénouement, tragique, tout y est pour marquer les esprits et l'histoire. Michel Platini, l'un des protagonistes de ce drame, dira « Aucun film au monde, aucune pièce ne saurait transmettre autant de courants contradictoires, autant d'émotions que la demi-finale perdue de Séville. » Et c'est vrai qu'il est encore douloureux de se plonger dans l'histoire de la demi-finale historique entre la France et l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 82. Heureusement, je suis chaleureusement entourée pour vous raconter tout ça. Bonjour Olivier.
Et bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Younes.
Salut tout le monde.
Bonjour Thibaut.
Bonjour à tous.
Et ce soir, Thomas nous a rejoint, petit nouveau dans l'équipe. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Tu vas vivre à l'enfer, Thomas, à l'enfer.
Soyez pas méchants comme ça.
Pardon, excusez-moi.
Si.
Thibaut, il est trop content, c'est plus le dernier à être arrivé.
Thibaut, on dirait Harald Schumacher ce soir.
il est ravi. Et pour commencer cet épisode, écoutons Michel Hidalgo, sélectionneur de l'équipe de France à l'époque, nous parler de cet événement.
Donc c'était quelque chose de très important, et notre joueur qui a été obligé de sortir, qu'on a été obligé, il avait des dents de cassé, et il était plein de sang, et Michel Platini qui le ramenait, il était sur la civière, Michel Platini lui tenait la main, je ne sais pas si vous avez vu, il l'a accompagné. Nous on a vu ça comme vous, et après on a su pourquoi, il avait une main qui tremblait comme ça, et Platini lui tenait, donc c'était quand même un choc violent, et en même temps qui a déstabilisé un petit peu le match, parce qu'on perdait notre joueur, et eux n'ont pas été sanctionnés du tout sur cet aspect-là. S'il y avait eu pénalty et s'il y avait eu la sortie du gardien de but, ça a changé tout le match. La déception des joueurs, c'est une chose, mais la colère des joueurs, la colère contre l'arbitre, la colère contre le manque de sanctions vis-à-vis des joueurs allemands. Et dans les vestiaires, avant le match, j'avais des hommes, j'avais des mecs, j'avais des gars qui prêts à aller au combat. Et après le match, j'avais des enfants. Des enfants, ils pleuraient comme des gosses. Et il n'y avait pas moyen de leur remonter le moral. Et il y a eu deux joueurs. Une heure après, ils étaient encore habillés. On a été obligés de les mettre tout habillés dans le bain parce qu'on avait un avion à prendre.
Et voilà le témoignage de Michel Hidalgo.
On dirait moins en fin de soirée, quoi.
Ouais.
Tout habillé dans le bain.
Alors bien sûr, vous vous en doutiez, nous n'étions pas nés en 1982.
Comme le poisson.
Sauf Younes, et cette fois-ci ce n'est pas une blague, il était déjà né.
C'est vrai, oui. On peut faire cette vanne.
En 82.
Eh oui, t'avais quoi? C'était quoi? Tu passais quoi en 82?
32 ans.
Les premiers examens de prostate.
Peut-être. Bon, aucun de nous ne l'a vécu, n'a des souvenirs de ce moment, mais 40 ans après, en se replongeant dans cette histoire, j'ai quand même envie de vous demander ce que vous ressentez. Et en tant que fan de foot, on ne peut que connaître cette histoire.
Bah oui.
Et je vais commencer par Younes.
Bah, je vais faire un peu de psychogénéalogie. On hérite souvent en fait des traumas des anciens. Et là, en fait, c'est un mythe fondateur en fait. Et on est face à une équipe romantique de héros qui se fait piétiner par le grand méchant. Et effectivement, ça a consolidé l'esprit français autour d'une équipe en fait, et tout ce qui a suivi après. Donc les victoires. Je pense qu'elles se sont construites là-dessus.
Et toi, Thibaut?
Bah, alors, je suis d'une génération qui n'a pas souffert si longtemps, parce que quand on a gagné la Coupe du Monde, j'avais 11 ans. Mm. Mais quand même, de 6, 7 à 11 ans, je me suis dit, mais voilà, il y a 58, 82, 86, on perd 3 fois en demi-finale, mais il y en a une qu'on devait vraiment gagner. Et on me le rappelait tout le temps.
Ouais.
Et ça n'intéresse personne, mais mon frère, son joueur préféré, c'était Manuel Amoros.
Ah. Et un homme de goût, ton frère.
Et du coup, il en parlait tout le temps. Et pourtant, il n'était pas né en 82 non plus.
Comme le poisson.
C'est bien foutu de ma gueule.
Comme le poisson. Comme le poisson. Il pique mes blagues alimentaires, donc ça me saoule.
Non, mais évidemment, je trouve que c'est un traumatisme qu'on n'a pas tant vécu d'une part parce qu'on n'était pas là, mais 98 a tout effacé pour nous. Ouais. Donc on
ah bah on a oublié, ouais, oui c'est un
on
peu
y pense moins. Olivier.
Oui, d'ailleurs, il y a toujours cette question aux footballeurs de 82, mais ça vous fait quoi que 98, ils l'ont gagné, quoi? Comme s'ils avaient effacé quelque chose. Et non, ils n'ont rien effacé du tout. Mais moi, je n'ai pas non plus connu 82 en travaillant sur le... Enfin, je n'ai pas connu 82, mais du coup, j'en ai parlé à mon beau-père qui était fan, abonné au FC Nantes. Je lui ai dit, alors, 82? Et là, il m'a regardé. Et parti dans la cuisine. Donc je pense que c'est encore un vrai trauma pour les gens qui l'ont vécu.
Il est revenu avec un double whisky. Voilà.
Non, il est pas revenu.
Il est jamais revenu.
Les flics.
Appeler la gendarmerie, non?
Oui, mais je pense que sans 82, t'as pas la victoire en 84, t'as pas 82. On verra peut-être ça plus tard, mais c'est ce qui fait que la France est sur l'échiquier mondial du football et devient tout d'un coup un pays.
On en parlera après, ouais, bien sûr.
Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu as ressenti en préparant cet épisode, à part un peu de stress?
Alors, au-delà du stress, en préparant cet épisode, j'ai beaucoup joué au monde parallèle. Il y avait une super série d'ailleurs quand on était jeunes, ouais. Slider, ouais. Je sais pas si vous vous rappelez.
Ah ouais, mais carrément.
Là, je l'ai fait avec le foot et je suis supporter du PSG, donc j'ai eu le droit à toutes les tristesses footballistiques qui existent.
T'es pas au courant.
Désolation.
Voilà. Et avec l'équipe de France, pareil, étant on est dans les années 80, un petit peu plus. j'ai connu aussi pas mal de choses qui étaient un petit peu autour de la défaite. Et du coup, je suis arrivé devant les gens de l'ancienne génération, comme Younes, en disant bah tiens, t'as vécu comment 82, etc. Parce que tu sais, moi j'ai connu Materazzi, c'est quand même dur, etc. Ouais. Puis ils m'ont regardé, l'air de dire tu sais, comme avec le bac. Non, non. Le bac de votre époque, c'était facile. Nous, c'était bien plus dur. Ouais. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti avec.
Tu connais pas la violence.
C'est comme un autre foot. Ouais.
Voilà. C'était un peu. Tu connais pas la violence.
Il y avait quelque chose de différent, et tu sens que le contexte est beaucoup plus important. Moi, Materazzi, on parle de foot et à la limite de problèmes en vacances d'été quand tu croises des Italiens qui te font campione.
Tu sens qu'il peut
vraiment y avoir un gros problème derrière. Quoi.
Quand on parle à Younes, il veut juste une compote. Hein. Lui, il s'en fout.
Non, et puis par rapport aux Italiens, on a quand même aussi l'Euro 2000 dans la balance qui nous permet un peu de.
Oui, et puis il y a une guerre un peu
contrebalancée.
Les Italiens, on les a battus souvent. Les Allemands, très 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 peu.
Non, et puis les Italiens, c'est un peu nous-mêmes qui nous mettons dedans avec. Le coup de boule.
Et toi, Sarah? Toi, Sarah, de toute façon, tes parents t'auraient empêché, si t'avais l'âge, regarder le match.
Ils t'auraient demandé de te coucher à la mi-temps.
Mon père me raconte qu'il a pleuré devant ce match.
Ah ouais, quand même.
Ouais, genre que, enfin, c'était horrible, quoi. C'était un vrai drame. Et puis, c'est quand même marqué du sceau de quelque chose que je déteste et que je combats en tant que Miss Fréquence Moderne, l'injustice. Il y a quand même un profond sentiment d'injustice. Et il y en a dans d'autres matchs, hein, c'est vrai.
Il y en a dans la vie en général, ça, tu sais.
Non, mais
c'est vrai que ce scénario, c'est l'illustration.
Il est très, très dur quand même, le scénario pour la France. Bon, faut accepter au final. On en reparlera tout à l'heure, finalement.
On n'est pas loin d'un épisode de Game of Thrones.
Ce gardien, avec ce geste horrible, il sauve aussi peut-être son équipe et il donne la victoire à son équipe, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, il dira qu'il ne regrettera pas. S'il ne regrette pas ce qu'il a fait. Donc, c'est voilà. Mais...
C'est une forme d'esprit dans le football qui existe aussi.
Exactement. Ouais. Bon.
Il faut accepter.
Merci.
Il y a des méchants.
À tous pour ce tour de table. Oui, mais bon, derrière, est-ce qu'on peut être aussi manichéen que ça, les méchants d'un côté?
Oui, parce qu'ils sont pas méchants. Enfin, bon, bref.
Et certains aiment endosser.
On en reparlera.
On en reparlera.
Ralf Schumacher n'est pas forcément non plus le plus gros salopard de la planète.
C'est un débat qu'on peut lancer.
Merci à tous. Et on commence tout de suite avec une petite remise en contexte. Alors, comment ça va le foot français avant 1982?
Eh bien, le vide intersidéral. Non, pas intersidéral, mais un trou d'air quand même.
En tout cas, dans les années 60 et jusqu'à mi-70, c'est la débâcle. C'est-à-dire que, en gros, il y a une grosse équipe qui s'appelait le Stade de Reims, avec Raymond Coppa. Donc, quand on parle de foot, on dit Coppa, Platini, Zidane. Et là, je crois qu'on fait une troisième place en Coupe du Monde en
Fontaine.
58. Ouais. Et derrière ça, effectivement, c'est le trou d'air total jusque dans les années 70.
Le soc, c'est qu'on a historiquement un recordman en Coupe du Monde. On a juste Fontaine.
Combien de buts?
12.
13.
13 dans une seule compétition. 13. Merci, ouais. 13 buts en une seule.
Bien joué, Thomas.
Ah, il marque des points, il marque des points. Attention, Thibaut, attention.
T'inquiète, je l'avais, moi.
Bien sûr. Et après, en fait, après, il est difficile après de faire mieux. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas fait mieux en une seule compétition.
Et on fera jamais mieux.
Bah oui, au-delà de la performance individuelle dont on s'en carre la nouille, c'est aussi la performance collective, si je peux me permettre. Les clubs français ne vont jamais loin en Coupe d'Europe.
Comme aujourd'hui.
Comme aujourd'hui, un petit peu. Sauf que là, il n'y a pas le Qatar pour acheter un club et en faire sa poupée.
Ou Bernard Tapie pour acheter des matchs.
N'importe quoi.
Dit la bienveillance.
Oui. Ouais.
Et le foot français va connaître un peu de mieux. Exactement. avec plusieurs facteurs, donc Olivier Besancenot, c'est le seul facteur que je connaisse et j'en suis désolé.
Facteur cheval.
Non, il y a plusieurs roms.
Ah oui, le facteur cheval. J'y suis allé.
Il y a plusieurs roms qui vont être déterminants pour un peu ce renouveau du foot français.
Alors Thibaut, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi, qu'est-ce qui va se passer dans les années 70 pour qu'on regagne un peu de la forme?
Il y a Georges Boulogne, le fondateur du COP.
Et du bois.
Non, à partir des années 70, la formation française de redevient ce qu'elle pouvait être dans le passé. On a un directeur technique qui est un des fers de lance du renouveau de la formation française. On en a d'autres aussi, Stéphane Kovacs, qui est un Roumain qui entraînera les Bleus, qui va remettre la France sur de bons rails. Vous connaissez aussi peut-être Fernand Sastre.
Ah, évidemment.
Oui, on en parle dans l'épisode de la Coupe du Monde 98.
Exactement.
Parce qu'il meurt il fait partie de
l'organisation.
L'organisation, et il meurt juste avant de connaître son premier match. Ce qui est quand même.
Moi, c'est un destin, et en fait, je trouvais ça assez beau. En fait,
Ouais, c'est la Coupe du Monde 98.
C'est une légende,
il est président de la 3F, donc de la Fédération Française de Football.
La 3F, monsieur.
On est un peu initié, on ne l'est pas. Il y rentre en 69 et puis président jusqu'en 73 et il fonde en fait un peu une sorte de football moderne en fait, donc avec un véritable programme en fait.
De formation et de préformation française,
basée
sur la technique et non plus sur le physique aussi.
Il décide exactement d'aller en profondeur en fait, justement pour essayer de rattraper un retard en fait qui s'est créé dans les années 70 avec les football hollandais, allemand et etc., les autres nations.
Exactement, et c'est lui aussi qui est un des créateurs de Clairefontaine, c'est
tout
ça.
Tout à fait, ouais,
les cahiers. Ça commence à faire beaucoup quand même.
Cahiers spirale, le bois de Boulogne.
Que personne nous suit. Et alors peut-être Thomas, tu peux nous dire, parce que donc à partir de ce moment-là, ça commence à se passer un peu mieux pour les clubs et pour l'équipe de France. Notamment, il y a un club qui marque les années 70.
Bah, qui c'est les plus forts, évidemment.
C'est
Saint-Étienne qui arrive en 75 puis en 76. Donc en demi-finale, la demi-finale en 76 de la Coupe d'Europe des clubs champions, qu'on appelle maintenant la Ligue des champions. Et malheureusement, chaque fois défaite face aux Allemands du Bayern, Munich.
C'est finale en 76. N'hésitez d'ailleurs pas à écouter notre épisode sur le sujet avec
Johan. Passionnant avec notre invité de Culture 2000.
Mais déjà, tu l'as dit Thomas, c'est déjà contre les Allemands, contre le Bayern, et il y a déjà ce petit passif du foot français.
Il n'y a pas que avec le football qui a un passif. Mais...
Et il y a aussi la finale de la Coupe de l'UEFA de Bastia en 78.
Je vous conseille l'excellent épisode sur les bouchers de Bastia, qui ne sont pas du tout sur les bouchers de Bastia.
Ça sera plus tard.
Voilà, et pour finir, en gros, ça va quand même un peu mieux, parce que du coup, Hidalgo arrive aux commandes, et le nouveau sélectionneur, on en parlera plus tard.
À la mairie,
tout à fait. Voilà, merci Younes, tu peux jeter tes notes maintenant, t'as fini. Et
je me casse, bonne soirée.
Et l'équipe de France se qualifie pour la Coupe du Monde 78 en Argentine.
Le Mundial.
On fait une petite apparition, mais en même temps, on a dans le groupe de l'Italie et l'Argentine. Et on a une nouvelle génération de joueurs basée à la fois sur les Verts de Saint-Etienne et sur la formation qui marche très bien en France de nouveau.
Exactement. Et donc, c'est bien, on est content. Les Bleus étaient en Argentine en 78, mais maintenant, il s'agit de se qualifier pour la Coupe du Monde 82 qui se tiendra en Espagne. Comment se passent ces qualifications?
Bien, ça se passe pas très bien. Pas très bien parce qu'on est avant-dernier. On a un groupe bouvof. On a Belgique. La Belgique, la France, l'Irlande, Chypre et surtout les Pays-Bas. Double finaliste de les deux dernières Coupes du Monde d'avant. Et
avec
on est...
le fameux Johnny Rep dont on a
avec
aussi
le fameux Johnny Rep qu'on aime beaucoup.
Et que pas Mickey que, 3D, et surtout.
Pour réécouter Mickey 3D.
Le roi Johan Cruyff.
Et qui n'est plus là.
Sur les finales.
Oui.
Pardon.
Et là, on a une équipe du Pays-Bas vieillissante, mais qui reste devant les Français. Et la France, c'est le match décisif. Il reste reste 2 matchs pour l'équipe de France pour se qualifier. On n'y croit pas du tout, on est avant-dernier. Il faut non seulement battre les Pays-Bas et ensuite enchaîner contre Chypre. Bon, ça, ça a l'air d'être une formalité, personne n'en parle. Mais il faut battre les Pays-Bas et on les reçoit le 18 novembre 81 au Parc des Princes, un stade qui était cher, Thomas.
Et c'est ça.
Et est-ce que ça va bien se passer, France-Pays-Bas?
Oui.
Mais pendant plus d'une heure, ou quasiment une heure, on va buter sur la défense batave.
Bah, parce que les Hollandais, ils n'ont juste besoin d'un match nul pour être qualifiés, eux. Donc, si tu veux défendre, ça leur pose absolument pas de problème.
C'était presque même une stratégie pour finalement tenir le score et essayer de passer comme
ça. Le mur batave.
Et puis en plus, eux, de leur côté, ils ont besoin que d'un nul,
c'est ça,
en fait.
C'est ça. Un nul, ils sont qualifiés. Un 0-0 des familles avec des ballons dans les tribunes, ça leur va très bien.
Bah, c'est comme aujourd'hui au Parc des Princes, c'est-à-dire que quand on arrive, on met l'autobus devant le. C'est l'expression, on met l'autobus, on attend que ça se passe.
J'aime bien cette expression.
Et là, ils ont mis l'autobus.
Il y a eu un vrai de vrai pour le coup. Ils en ont mis un vrai.
Et alors, que fait Thomas? Que fait Hidalgo, le sélectionneur des Bleus?
Ah. Hidalgo, il fait un peu. Alors, je sais pas si on a des joueurs de FIFA, il fait attaque de folie. Ça veut dire qu'il appuie sur la flèche de droite et puis tous les joueurs se retrouvent en attaque. Alors, plus précisément, il fait un 4-3-3 avec un milieu de 3 offensifs. Normalement, si on est Didier Deschamps, on met 3 défensifs, d'accord, 2 défenseurs en plus, un attaquant qui revient. Bon, on va pas rentrer dans ce débat maintenant. Mais,
et donc, là, c'est un match très chiant.
Voilà, c'est un match très chiant. Là, c'est quand même hyper culotté de mettre 3 offensifs, 3 joueurs qui en plus ont beaucoup de ballons. Et en l'occurrence, Platini, Genghini et Gires.
Tout à fait. Thibaut, est-ce que ça va payer?
Eh ben oui, parce qu'ils vont finalement faire une faute et
le
permettre.
Le toupé,
c'est pas une blague, ça, non?
Ouais, non, t'as raison, c'est pas une blague.
En fait, ta blague repose sur l'allitération P, c'est ça?
Exactement.
Ouais, Platini est fauché par le vétéran Neskens. Neskens, c'est marrant ça, parce que Neskens, il y avait un joueur à Malherbe qui s'appelle Neskens Kebano.
Alors,
il est formé au Paris Saint-Germain.
Oui, j'allais vous le dire. Il était archi nul. Ils nous ont prêté peu de joueurs à jouer, c'est de la merde. Garrison Innocent ou Neskens Kebano. Bon, bref.
Platini mange la pelouse.
Oui, et là.
Et là, il prend le ballon.
Oui, il prend le ballon.
Il décide de.
C'est un très beau 1-2 avec Gires. Platini l'a déjà raté 2 coups francs juste avant. Voilà. Et alors, là, il est face au mur. Et là, bah, peut-être que Sarah, je ne sais pas.
C'est Thierry et Jean-Michel, nos potes, Titi et Jean-Mi, qui vont nous raconter ce qui se passe dans ce match.
Ah, là, une faute! Ah, quand même! Là, il a sifflé une faute sur Platini.
Faute de Niskanen sur Platini. Et un bon coup franc.
Oui, encore un. Mais enfin, comme les deux premiers, je les avais qualifiés de tels, je préfère me taire et vous laisser la responsabilité de ce que vous dites, Jean-Michel. En tout disant, un coup franc bien placé.
En tout cas, je ne sais pas si M. Garrido a sifflé un coup franc direct, bien sûr.
Ah ben là, oui, il me semble qu'il doit être direct et il faut que le mur, qui est pour l'instant à 4,50 m, se recule d'autant. Non, encore, dit M. Garrido, allons-y. Et Michel Platini, maître artilleur cette fois-ci. Sur le mur.
Dans le mur.
Et une main. Oui.
Faute de Van de Corput, un peu avec l'épaule.
Et un peu avec le bras.
Deuxième chance pour Platini.
Bon ben, de toute façon, comme il y en a eu 3 de bien placés qui ont été ratés tous les 3, on efface tout et on recommence.
C'est de cet endroit-là qu'il avait battu Dinosov.
Oui, contre la Bulgarie il y a 4 ans.
Dinosov.
Ah, Dinosov, non, je croyais que vous disiez le gardien de but bulgare. Mais c'était de cet endroit-là aussi.
Allez, Michel. Voilà. Oui, Michel.
Oui, Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput à la 8e minute de la partie.
Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel, on le voit sous un autre angle. Je le sentais ce
bravo,
coup.
Bravo Michel.
Hein, c'est... Lucarne de Michel. Ah là là,
en direct de les pattes des orchidées.
C'est donc Thierry Roland et Jean-Michel Larquet.
Tu sais que c'est Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Le 82, c'est enfin Larquet doit avoir arrêté sa carrière depuis pas très longtemps, je pense.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est vraiment à ce moment-là que le duo prend vie, forme devant nous.
Ils vivent leur
notamment le match de 82 où ils sont incroyables.
Et ils donnent l'impression d'être déjà bien rodés quand on les entend là.
En ça fait 1-0 pour la France, même 2-0 avec un autre but ajouté dans les arrêts de jeu.
Et oui.
Derrière, donc ça, c'est
à dire que la tension était importante parce que on l'a pas dit, mais je pense que tout le monde le devine. Mais Platini est quand même le spécialiste du coup franc.
Exactement. Et on y reviendra un peu tout à l'heure. Et donc trois semaines plus tard, la France va battre Chypre 4-0 après cet petit exploit contre les Pays-Bas.
Et là, on est
à la Coupe du Monde. Yes,
direction l'Espagne.
Direction.
Alors.
L'Andalousie.
Et pas que.
Et pas que.
Et oui, direction l'Espagne. Tout
alors,
à fait.
Oh là là, l'Espagne, le pays hôte pour donc cette 12e édition. Et peut-être que en quelques secondes, je vais vous raconter dans une nouvelle rubrique incroyable comment va se dérouler cette Coupe du Monde.
Allez.
Bienvenue dans cette première Coupe du Monde à 24 équipes contre 16 en 1978. Les règles, messieurs, sont simples. Un premier tour avec 6 groupes de 4 équipes. Chaque équipe s'affronte une fois et les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le second tour, soit 12 équipes. 24 divisé par 2, tout le monde a suivi. Au second tour, elles sont réparties en 4 groupes de 3 équipes. Match simple à nouveau. Et le premier atteint les demi-finales. On est donc sur quelque chose de très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. La suite, vous l'avez deviné, demi puis finale et match pour la troisième place. Peut-être quelques faits notables de cette incroyable Coupe du Monde.
Allez-y, Bernard.
Eh bien, nous allons assister à la première séance de tir au but de l'histoire de cette compétition. Avec spoiler alerte, ce sera pas terrible pour les Bleus. Malheureusement.
Mais chut.
Enfin, c'est aussi la première Coupe du Monde pour un joueur alors très médiatisé suite à son transfert au FC Barcelone pour aujourd'hui, ça nous paraît ridicule, 7 petits millions d'euros.
C'est normal.
Même moi, je peux me les acheter.
Ouais. C'est le prix de Pancrate, je crois.
C'est donc Maradona. Et malheureusement, l'aventure ne sera pas très heureuse pour lui puisque l'Argentine sera éliminée au second tour.
Un peu tendre, Diego.
Un peu tendre,
encore,
peut-être.
Il va se rattraper.
Pourtant, son équipe était tenante du titre.
Oui,
mais ce sont deux autres équipes qui vont vraiment faire le spectacle en ce début de Coupe du Monde. C'est le Brésil et l'Italie. Et je vous redonne la parole pour nous en parler. Le Brésil, comment il est à cette Coupe du Monde?
Déjà, elle était bien cette rubrique.
Ouais. Merci.
Elle était bien. Ouais, c'est bien. Bien. On passe une heure et demie à parler de la compète. Oui, mais attends, t'es sûr que c'est trois équipes? Là, c'est clair, net,
moi, j'aime
précis.
Bien.
Et si ça se trouve, j'ai raconté plein de conneries.
Eh bien, je crois pas. J'ai bien écouté. Je crois pas.
C'était
je crois
parfait.
Pas non plus.
C'est le Brésil. C'est pour beaucoup de Brésiliens, figurez-vous. Alors que ce Brésil ne gagnera rien. Enfin, en tout cas, pas la Coupe du Monde. C'est le plus beau Brésil. Encore plus beau que celui de Pelé. C'est le Brésil avec une équipe très romantique où tout le monde joue au ballon. Enfin, vous me direz, c'est
plus beau que l'équipe de 70 de Pelé.
Tout à fait.
Qui est réputée pour être la plus grande équipe de tous les temps.
On a Zico, on a Socrates, on a Falcao, on a des défenseurs très techniques et ils ne gagneront rien. Et pourtant, c'est une équipe qui est considérée comme très romantique, un peu comme l'équipe de France d'ailleurs.
Il y a des similitudes. Il y a des similitudes.
Et quelques mots peut-être sur l'Italie, Younes.
Elle est joueuse aussi. À cette époque, toutes les équipes sont joueuses, mais devant l'immense portier Dinosov. Elle possède pas mal de joueurs créatifs et offensifs, comme le Florentin Graziani, dont on parle dans l'épisode sur Bastia. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et surtout, l'attaquant turinois magnifique Paolo Rossi.
Alors, si je puis me permettre, je me suis renseigné toute l'après-midi. C'était très important pour moi. Il n'est ni parent avec Valentino Rossi, Giuseppe Rossi, ni Tino Rossi. Voilà, c'était
parfait.
Pour le préciser.
Aucun lien, t'es sûr?
Oh, rien.
Ok.
Peut-être il est parent avec Sassanle.
Ah oui, il y a des chances.
Il est où le jingle des blagues pourries?
Je l'ai oublié. Et donc
on a quand même
d'autres équipes. Oui. On a l'Argentine de Maradona.
Les Allemands de
cette année.
L'Angleterre de Robson.
Ouais, on a l'Allemagne de l'Ouest de Rummenigge.
Puis il y a les bleus, mais les bleus, on rappelle qu'on s'est qualifié à l'arraché et que on est encore un peu tendre pour beaucoup. On
comme la pas, viande en formation.
On fait pas figure d'équipe favorite en tout cas, mais bon, on va quand même vous parler un peu de ce groupe parce que c'est ça qui est beau dans ce groupe, c'est les personnalités, c'est tous ces acteurs. On a envie de leur faire des petits câlins. Ouais. Même Platini à l'époque, on a envie. Aujourd'hui, on a un peu moins.
Oh oui, aujourd'hui, pas du tout même.
Mais voilà. Alors. Aussi. La composition du groupe France. On va commencer par donc son sélectionneur Michel Hidalgo qu'on a écouté tout à l'heure. Alors, qui veut nous dire quelques
mots
de ce
monsieur ? Moi, j'aimerais savoir Thomas où il est né Michel Hidalgo.
Et bon, merci pour la passe décisive. Il est né le 22 mars 1933.
Oui, mais où ?
À Lefrancourt. Que l'on peut prononcer, il me semble, Lefrancourt.
Tout à fait, dans le nord de l'Alsace.
Pas loin de Pau, si je ne m'abuse.
Il est en poste
depuis
1975
et avant, il était adjoint de l'ancien sélectionneur Stéphane Kovacs pendant 2 ans.
Oui.
Il était joueur pro au Havre, à Reims et à Monaco notamment. Et il a emmené les Bleus à la Coupe du Monde en 78 en Argentine avant le fameux petit trou d'air avec l'absence de la France à l'Euro 1980. Et en fin de compte, on arrive à la Coupe du Monde en 1982.
Alors, oui. Il a un surnom à la fois gentil et méprisant. Quoi. Mais,
alors ça a été aussi reporté sur beaucoup d'autres sélectionneurs.
C'est un peu le
champion des matchs amicaux. Ouais. Voilà. C'était un peu l'étiquette que même l'équipe de France avait.
Ça veut dire qu'il va gagner les matchs amicaux, mais pas les matchs importants.
Les matchs importants.
Ouais, voilà. Et en fait, il est considéré comme un gentil. C'est un gentil qui fait un peu il chouchoute un peu ses joueurs, il leur laisse une grande marge de manœuvre et on pense qu'il n'est pas du tout tacticien, ce qui est faux comme on va s'en rendre compte plus tard.
On va s'en rendre compte plus tard, effectivement.
Il a un regard très doux, enfin faut le voir, il a des yeux.
Il est, avec ce mot à la mode au XXIe siècle, bienveillant.
Voilà. Et oui, et nous on aime ça, la bienveillance, et je vous propose pour vous en rendre compte, il suffit de l'écouter parler de son équipe. Hyper touchant, moi aussi je voudrais qu'on parle de moi comme ça.
Si vous deviez dire quelle est la meilleure qualité de l'équipe de France, vous me disiez c'est sa bonne tenue.
La correction, c'est vrai que c'est une grande qualité qu'on ne met pas assez souvent en avant dans le sport. Mais bien sûr, c'est pas cette qualité seulement qui fait gagner les matchs. Et si on doit en ajouter une autre, c'est la générosité. Je n'ai pas cette vanité de croire que c'est moi qui leur ai donné. Je pense que ça fait partie de leur éducation, ça fait partie de leur qualité d'homme. Et je pense que je suis heureux surtout de toujours préconiser cela et que sans avoir besoin de leur dire trop souvent, ils le font d'eux-mêmes.
Et ils n'ont pas l'idée de gagner par tous les moyens, ils jouent aussi pour le plaisir, ça existe ça, même au niveau d'une équipe de France.
Eh bien, ils jouent surtout pour le plaisir et je veux que dans chaque match, il y ait ça de mis en avant. Ce sont des mots qui paraissent un peu enfantins maintenant, de parler de plaisir, de satisfaction, de bonheur, mais personnellement, je veux toujours les mettre en avant et je crois que c'est souvent ce qui se passe avec nous.
Ça devrait tellement servir.
Il est gentil. Il est génial.
Non mais je trouve qu'il est hyper moderne.
Ah, il est moderne.
Ah ouais, mais je trouve hyper moderne.
Et vous avez remarqué, il vit à Roissy, visiblement. Oui. J'entends que des avions.
Eh oui.
C'est vrai qu'il est gentil.
Et c'est un vrai tacticien. Il a vraiment, lui, il croit vraiment en la formation française. Il lance énormément de jeunes joueurs.
Il croit au jeu.
Et il croit au jeu.
Et au plaisir, en fait, que ça peut procurer. Et surtout, en fait, au résultat que ça peut
donner. Tout à fait.
Et pour un champion du monde des matchs amicaux, il prend des risques sur des matchs.
La preuve, en 81 contre les Pays-Bas. Ouais, tout à fait. T'as raison.
Et puis il y a aussi, on l'a dit tout à l'heure, mais cette très bonne entente et cette confiance entre lui et le patron de la Fédération Française de Foot, Fernand Sastre, qui fait que tout ça va être possible. Et donc, on a présenté le sélectionneur, mais il y a aussi des joueurs.
Alors je précise juste une chose, moi ce qui m'a impressionné, c'est que le tableau présentant l'équipe et donc la formation n'était composé qu'à 100%. Deux joueurs jouant évoluant en équipe
à 100% alors d'hommes.
C'est faux parce que
100%.
Alors corrige-moi Olivier.
C'est faux parce que Didier Six joue à Stuttgart. Mais sinon, à part ça,
à 99%.
Faut savoir que on en a déjà parlé mille fois à chaque fois qu'on parle de club français. À l'époque, il y a l'arrêt. C'est pas encore l'arrêt Bosman. Donc il faut.
Mais c'est bien de le répéter les grands à nos
joueurs,
auditeurs.
Oui, mais c'est surtout bien pour les grands joueurs jouent dans leur club.
C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît très dingue.
Dans leurs clubs nationaux, ce qui fait que du coup, des équipes comme par exemple le Dynamo de Kiev ou quoi sont des équipes très très fortes, les Glasgow Rangers etc. Et du coup en sélection les sélections aussi sont le niveau est aussi un peu plus resserré entre les sélections
et donc on avait des oppositions de style.
Et donc on commence peut-être par un milieu offensif de Saint-Étienne, capitaine,
Le fameux Zizou?
Non.
Non. Petit bonhomme.
Michel. Petit bonhomme.
Petit bonhomme, c'est pas Zizou.
Non, 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 c'est.
C'est Michel. C'est oui. Michel Platini. Platini.
Tout à fait. Dis-nous quelques mots sur.
Ah, le petit Michel Platini, il naît le jour du solstice du printemps ou de l'été, je sais plus. Le 21 juin 1955 en Meurthe-et-Moselle. Petit-fils d'immigrés italiens, le petit Michel est choyé par sa famille, le papa Aldo, très bon footballeur amateur.
Oui.
Et Michel, très vite, il va se faire remarquer. Il manque de signer un premier contrat, où ça ?
À Metz.
Le temps que je tourne la page. À Metz.
En Moselle.
Et là, on se dit, il a des problèmes de santé, un problème respiratoire.
C'est dommage, c'est pour dommage. Metz.
Mauvais ouais. Médecin, visiblement.
C'est tu sûr. Sais, ça n'a pas empêché Younes de faire une grande carrière.
Bah ouais, c'est vrai. Ça sifflotait quand je respirais aussi.
Et donc, finalement, le destin... C'est l'AS Nancy-Lorraine et non pas le FC Metz. Donc il va se faire remarquer sur la fin des années 70, 73 à 79. C'est un garçon qui n'est pas très extraverti. Hein. On peut dire même qu'il est très renfermé. Il ne comprend pas trop qu'on parle autant de lui. Il n'est peut-être pas finalement conscient de son niveau.
Ça va changer.
Bah, il avait un copain, c'était son ballon.
Oui, c'est vrai.
Et puis la porte du garage de son papa. Et il n'arrêtait pas de passer ses journées entières à taper dessus.
Voilà. Ouais. Et Younes et Olivier en ont parlé. Une de ses spécialités, très vite, ce seront les coups francs.
Eh oui, grâce à ses centaines et des centaines de répétitions, ça a forcément forgé...
Devant les mannequins en mousse de l'Est en Sinorène.
Eh bien, voilà. écoutons donc tout cela.
Et pourquoi vous étiez si fort ? Parce que vous travailliez plus ? C'était les mannequins en mousse de Nancy qu'on a vu ? Ou c'était quelque chose que vous aviez ?
Je pense que ça c'est plus du plaisir que j'ai eu à taper les ballons dans ma jeunesse, avec l'intérieur du pied, avec le concours du plus jeune footballeur qui existait à l'époque, où je m'entraînais, où je passais mon temps à taper là-dessus. Après, la lever au-dessus d'un mur et la mettre derrière, c'était pas difficile pour moi. Le problème, c'était le gardien qui ne la voit pas partir la balle. J'avais un principe, je disais, je vais essayer de ne pas savoir où je tire, comme ça, lui, il ne peut pas le savoir non plus. Mais bon, je sais pas, parce que c'est en fonction de lui. Je dis, moi, je faisais abstraction du mur, je faisais abstraction du ballon, et je faisais un face-à-face avec le gardien de but. S'il anticipait, s'il anticipait pas. Puis j'ai toujours eu la chance d'avoir, parce que les gardiens me connaissaient, de les mettre des deux côtés. Donc ça posait un problème au gardien de but.
En chiffres, Platini, c'est 60 coups francs marqués dans toute sa carrière.
C'est énorme.
Dont 11 avec l'équipe de France. Mmh. Et sinon, Thomas, il portait un numéro qu'on connaît bien. Quel numéro ?
Le numéro 10.
Et oui.
Sauf que bon, le poste de numéro 10 est pour le coup assimilé à Zinedine Zidane. Bonjour. Mais
c'est
très dur
toi,
à Zinedine Zidane. Hein. mais lui, il n'est pas vraiment milieu offensif.
Non.
Il est presque attaquant. En fait, il faisait un peu ce qu'il voulait sur le terrain. Il était libre. Et on peut même dire qu'il sentait le jeu, qu'il était... assez à l'aise techniquement, il n'était pas trop embêté avec le ballon.
Non, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est presque, c'est un peu maintenant, en fait, on l'a beaucoup comparé à Zidane, mais dans le poste, pour ceux qui ont suivi un peu le foot, c'est un peu le Djorkaeff, hein, il ressemblait plus à Youri Djorkaeff dans sa façon de jouer presque.
Peut-être, très rapidement, quelques mots quand même sur sa carrière, même après 82. C'est 3 ballons d'or.
C'est ça.
Ouais, bah c'est surtout la Juventus de Turin.
Et c'est la Juventus de Turin.
3 ballons d'or, champion de France, d'Italie, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions, Coupe des Coupes, Intercontinental, championnat d'Europe 84.
Petite nuance sur le ballon d'or, c'est qu'à cette époque-là, le ballon d'or n'est pas ouvert aux étrangers, c'est-à-dire de l'Europe. Le ballon d'or, là, pour l'instant, ce n'est qu'en Europe. C'est qu'à partir de 95 que c'est ouvert au monde entier.
Et donc, il n'est pas mis sur le même plateau que Maradona, par exemple.
Voilà. Attention, monsieur Platini, vous méritez vos ballons d'or, pas de problème.
Évidemment.
Mais, parce qu'il nous écoute quand même.
80, on aurait voulu savoir ce qui
s'est passé.
C'est
Weah, d'ailleurs. C'est pas Weah en 95. C'est qui en 95?
C'est le premier joueur non-européen. Oui, c'est Jean Jouéa.
Ouais, c'est Jean Jouéa.
Ouais, en 93, je crois, ou 95.
Et il ira jusqu'à 93, être président de l'UEFA.
Avec des certaines 2-3 casseroles, on va pas se mentir.
Des casseroles.
Non.
Des petites poilettes.
En tout cas, Platini, c'est le patron, c'est tout, point. Et il n'y a qu'à écouter ce petit extrait, et c'est son coéquipier Alain Giresse qui en parle extrêmement bien.
Alain Giresse, comment il est Platini? Parce que de temps en temps il est de bonne humeur, de temps en temps il est plus nerveux, il est plus inquiet. Attention, comment il est Platini?
C'est risquer sa place que de dire.
Vous risquez votre peau si vous.
Non, c'est difficile. Je suis obligé de dire que du bien. Non, il est toujours agréable à vivre.
Il n'a jamais de mauvaise humeur.
Si, quelquefois.
Quelquefois.
Suivant s'il a gagné ou perdu aux cartes.
Ah, ça dépend des cartes.
Ça modifie son moral, non. Mais enfin, je crois que c'est un véritable leader qui est un gagnant avant tout et qui nous entraîne tous derrière lui, et je crois que c'est le bon sillage.
Alors, c'est qui ce Alain Giresse?
Oh, moi, c'est mon joueur favori.
C'est un socle des Girondins.
Bah, c'est très
peut-être même lui le vrai 10 finalement de l'équipe de France, parce que en tout cas dans le rôle, parce qu'il il distille beaucoup de ballons
très offensif.
Voilà, il fait 1m63, il est tout petit, il joue à Bordeaux qui marche très bien avec Claude Baize et
pardon, il a dit Baize.
Et voilà, d'ailleurs en 82, spoiler, il finira deuxième du Ballon d'Or.
Derrière Rossi,
voilà. Donc lui c'est, on l'aime beaucoup, le Gigi, on l'adore.
Allez, chacun votre tour. Vous allez me raconter un autre protagoniste de cette Coupe du Monde. Thibaut, tu veux commencer ?
Ouais, moi, j'ai envie de vous parler de Jean Tigana.
Très bien.
Je l'aimais bien.
Thomas, il est dégoûté. Il voulait trop en parler.
Non, parce que moi, j'ai une grande affection pour Marius Trésor.
Allez, Tigana.
Sinon, je vous fais Manuel Amoros.
Non.
Je crois que j'ai plus le droit.
Fais Jeannot.
Jean Tigana, il est né au Mali d'un père malien et d'une mère française. Il est arrivé en France à 3 ans. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il était d'abord postier avant de devenir footballeur professionnel. Donc,
comme
Olivier Besanceteau.
Merci.
J'aime bien cette blague. Donc c'est un milieu défensif, un véritable gratteur de ballons, comme on dit, increvable, comme qui ?
Comme Younes.
Comme le matelas gonflable.
Je crois que je vais arrêter de lui donner la parole.
Il y a une soirée à Bruxelles. Enfin, bref.
D'un tempérament plutôt discret en dehors du terrain. N'Golo Kanté. Pourquoi je parle toujours de Malherbe ? Pourtant, il a un gros caractère. Il n'aime pas parler aux médias. Mais en revanche, quand il est sur le terrain, là, il se lâche vraiment. Il jouera à Toulon, puis à Lyon. Et puis ensuite, c'est à Bordeaux, le grand Bordeaux, qu'il deviendra.
Le Bordeaux de qui ?
Le Bordeaux de qui ?
De Claude.
De Claude.
Claudez. Et il finira aussi deuxième du Ballon d'Or.
Ça ne m'a pas fait rire la deuxième fois.
Et oui, voilà, en 1984.
Plus rire la deuxième fois, Sarah, tu sais, c'est déjà trop tard.
Alors, Thomas, tu voulais parler de Marius Trésor.
Eh ben oui, alors j'en ai beaucoup entendu parler, mais en étudiant les choses, en regardant le match et tout, grande découverte, et je suis devenu absolument fan de ce Marius Trésor. Pendant le match, après le match, avant le match, je trouve ce monsieur génial, déjà d'une grande humilité. On peut vraiment dire que c'est un vrai gentil, que c'est... Déjà, on se pose la question, est-ce que c'est pas le meilleur défenseur de l'histoire, tout simplement ? Pour lui, ce sera sa dernière Coupe du Monde, et sa dernière Coupe du Monde en 82.
Donc, ouais, c'est la génération un peu d'avant, finalement, oui, voilà. Les autres. Donc, de l'équipe.
C'est une sortie... Zidane est sorti comme
sortie,
ça. Younes, on verra comment tu sortiras d'ici.
Ce qui est sûr, c'est... Younes, ce sera sur civière.
C'est comme Molière, il mourra sur scène, de toute façon.
On pense. Et donc, voilà, il a joué notamment à Ajaccio, à l'OM, mais ses plus belles heures, il les fait chez les Girondins de Bordeaux, qui est son club de cœur.
Le Bordeaux de qui on l'a vu.
De Claude.
Le Bordeaux de l'Aquitaine. Du coup, il est imprenable dans les airs, ce monsieur. Il est quand même très, très, très athlétique, très, très fort et très, très classe. Mon héros, tout simplement. Il a le record du monde en sélection avant d'être battu par un autre joueur.
Lilian ?
Non, toujours pas. Olivier, non, toujours pas.
Maxime Bossis.
Tout à fait.
Ouais. Et après, ce sera Manuel Amoros.
Ce sera Amoros pendant un temps, ouais. Tout à fait. Bah, après Deschamps, après Thuram.
Ouais, c'est HK Deschamps, exactement. Amoros.
Et ben, Younes, Maxime Bossis.
Non, je voulais faire Bernard Gengini.
Vas-y, pardon. Alors, moi, je fais Maxime Bossis.
Qui fait une transition de l'espace.
Alors, c'est le plus jeune des quatre. C'est qui les quatre ? On en parlera tout à l'heure.
On parle de Gengini, là, c'est ça ?
Ah, donc, ok. Donc, moi, j'ai pas. Attends, c'est moi qui présente Maxime Bossis pour faire dans l'ordre et après je te donne
évidemment,
la parole.
Évidemment.
Sarah, elle aime bien l'ordre, mais ça vous le savez.
Oui. L'ordre juste.
Par et la morale.
Comme Ségolène Royal. Allez, Ségolène. Maxime Bossis, c'est un défenseur, même génération que Platini. Il est vendéen d'origine, il est surnommé le Grand Max. Pourquoi ? Parce qu'il est grand.
Il est libre. Parce qu'il est libre.
1m86.
Le chouin.
Et parce que son prénom, c'est Maxime, tout à fait. Merci, Olivier. Il va jouer à Nantes, notamment. Et il forme une défense solide avec le petit Marius Trésor. Et c'est un très bon défenseur, un des meilleurs dans les années 70. 80, il ne se prendra que...
Non, ça c'est fou.
4 cartons jaunes au cours de sa carrière.
Ça, c'est dingue.
Donc,
pour un défenseur.
Très respectueux,
hein.
Très humble.
C'est vrai que c'est dingue.
Et voilà, c'est le petit gars avec qui tu as.
Et il est très gentil parce qu'il a, en 82, il joue arrière gauche. Donc, ou arrière droit, je ne sais plus. Amoros joue arrière droit et lui a vaincu.
Ouais,
je sais plus.
Gauche.
Parce que c'est Jean Vion qui joue de Saint-Etienne qui joue défenseur central. Et il accepte. Et voilà, c'est comme ça. Il est génial.
Allez, Younes.
Alors,
il a première sélection en 1980.
Mais de qui,
qui
tu
de
nous
qui
parles,
tu parles,
il baffe sur la.
Ah micro. Oui, Bernard Gengini, alias Chucky. Chucky, c'est aussi le surnom du papa de Youri Djorkaeff.
C'est aussi, ça pourrait être un nom de chat.
Ouais. Ah, d'ailleurs, c'est une bonne idée. C'est le plus jeune des quatre. Alors, c'est qui les quatre? C'est le carré magique, on en parlera tout à l'heure. Le troisième joueur offensif, moustachu fier. Il joue où? Au FC Sochaux, club de Peugeot. Voilà, l'un des fondateurs du championnat de France, ce club, avec lequel il participe à la demi-finale de la Coupe de l'UEFA en 81, gaucher assez classe. Malheureusement pour lui, c'était un peu sa malédiction, parce qu'il paiera un peu la comparaison avec qui? Avec Michel Platini. Oui. Et il sera toujours comparé, et effectivement, au moment du changement de génération, on lui préférera un certain Luis Fernandez pour
exactement.
Le remplacer.
Exactement. Et bon, il y a d'autres joueurs. Oui, hein. Didier Six, Manuel Amoros, Batiston, dont on vous reparlera.
Ouais.
Jean Vion et Lopez. Ou Rocheteau. Donc la France.
L'ange. Ou Ettori, le gardien de but, quand même.
Ouais. Tout à fait. Donc la France n'est pas favorite, oui. Mais non. Elle a quand même une jolie équipe, on l'a dit. C'est plutôt pas
oui,
mal sur le papier.
Mais rappelons-le, elle se qualifie ric-rac.
Et elle se qualifie ric-rac, ouais. Exactement. Donc il est temps de vous raconter le premier tour de cette Coupe du Monde. La France est dans le groupe D avec l'Angleterre, le Koweït et la Tchécoslovaquie. Les deux premiers passent au second tour, on le rappelle. Et donc les choses ne se passent pas très bien au début, très rapidement. Est-ce que face à l'Angleterre, on finit comment?
On perd avec deux buts d'écart, 3-1 pour l'Angleterre.
Oui, voilà, rien de grand-chose à dire, ils sont plus forts.
Bobby Robson qui met un doublé,
oui,
il marque à la première minute quand même. Hein.
Et Hidalgo dit, de toute façon, n'importe qui aurait perdu contre n'importe quelle défense, ce serait pris des buts contre l'Angleterre, ils sont très forts. Et malgré tout, on stresse un peu parce qu'on nous monte en épingle, peut-être pas, une espèce de tension entre Platini et le reste du groupe.
Oh,
à ce moment-là, on a un tout petit peu peur, en mode le roi Platini contre le reste du groupe.
Alors moi, j'ai lu une brève sur ce match, je sais que les Anglais se déplacent en masse en tant que supporters, et que c'est pas vraiment le cas des Français, et que dans la cathédrale de Saint-Mamès, donc à Bilbao, ça peut faire la différence.
Dans une brève, hein, il l'a dit.
Alors,
il a été bref.
Une dépêche.
Voilà. Il nous reste donc deux matchs,
oui.
Koweït, Tchécoslovaquie. Là, il va falloir peut-être faire un peu mieux. Contre le Koweït, est-ce que vous pouvez me raconter, on va dire très rapidement, on va le dire, hein, on va gagner 4-1 au final, mais il y a quand même une petite anecdote rigolote à raconter. Qui veut m'en parler?
Le chèque?
Eh ben oui.
Eh oui.
Eh ouais,
et
bah
pas
ouais.
Le chèque.
Non, pas le chèque en bois.
Pas le chèque en bois.
Non.
Donc la France, en fait, elle mène 3-1.
Oui, merci.
Tranquille.
Merci de prendre la parole pour finalement laisser Sarah dans la merde. Voilà. C'était parfait.
Je ris de mes blagues. J'ai droit de rire de mes blagues.
La France mène 3-1, 10 minutes de la fin. C'est un match qui, a priori, bon, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à la 79e minute de jeu, Gérès a marqué. Jusque-là, pas de souci non plus. L'arbitre valide. Jusque-là, pas de souci non plus.
Mais les Koweïtiens, ils sont pas contents.
Ils valident pas, non, enfin, je crois.
Non, mais
visiblement.
C'est quand même génial. Et
il y a eu un coup de sifflet, mais le coup de sifflet,
ouais, voilà.
Il n'est pas venu de l'arbitre, il est venu des tribunes.
Enfin, c'est ce que disent les Koweïtiens.
C'est ce que disent les Koweïtiens, et que du coup, ils se sont arrêtés de jouer. Enfin, ça, c'est quand même.
Et
voilà.
Il y a quelqu'un qui va descendre sur le terrain.
Et alors, un mec foutre le bordel.
Comment il s'appelle, Thomas, le monsieur?
J'ai révisé. Il s'appelle le cher Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. De la Fédération Koweïtienne de foot.
Magnifique.
Magnifique.
Et non, je crois que c'était son frère. Tu peux retirer le nom.
Et qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur?
Ce monsieur, il descend voir l'arbitre complètement sur le terrain.
C'est incroyable.
La dernière descente que je connais sur le terrain, c'est le papa de Imanol Arenandoki qui est venu pour castagner des adversaires. Mais
très
là, c'est hyper original de descendre pour venir régler ses comptes directement quand on a un petit peu de pouvoir.
Et il pensait que ça faisait partie des règles. Oui, oui.
Et ben ça marche, figurez-vous.
Bah oui.
C'est une bonne technique parce que ça marche.
Hidalgo pète un plomb quand même.
Quand tu es frère cadet de l'émir et président de la fédération du Koweït, tu peux faire annuler un but tout simplement.
Et voilà, et du coup, c'est ce qui va se passer. Bon, on galère à 4-1. Donc, ils peuvent... Par contre, pour info, l'arbitre a été radié à vie. L'arbitre de ce match a été radié à vie.
C'est dur aussi.
Mais il s'en fout, il vit au Koweït.
Il est très riche, ainsi que toute sa famille.
C'est quand même une victoire, donc 4-1 au final.
Voilà, c'est bien, et ça se passe plutôt bien. Parce
pour la
que,
confiance, c'est pas mal. Ouais.
Parce que c'est chouette. Quoi, voilà.
Et il nous reste un dernier match.
Il faut faire au moins match nul.
Et voilà, c'est ce qui
je te l'offre sur le plateau. Un petit match nul face à la Tchécoslovaquie. Slovaquie, et un oui. partout. Ouais. But un de pays Didier qui n'existe pour la France. Plus. Un pays qui n'existe plus ou un pays qui est double maintenant. Qui s'est scindé.
Et d'ailleurs, on va vous raconter son histoire. Thomas.
C'est la rubrique.
Non, Thomas. J'avais une question pour Younes qui était donc né à cette époque et qui avait déjà l'âge de mon père aujourd'hui. La panenka, donc il s'agit du monsieur qui a inventé la panenka. Oui. Est-ce que là, il l'avait déjà inventée, déjà faite?
Tout à fait.
D'accord. Bah,
merci. Oui, alors
la panenka,
c'est un geste technique. Voilà. C'est ce que fait Zidane en 2006 contre Buffon, voilà. quand il y a penalty. C'est-à-dire, tu tires le penalty en faisant une petite louche. Voilà, le ballon est tiré tout doucement.
C'est comme tu fais un peu une, ouais. Bah, en fait, un peu une cloche.
Voilà, un petit lobe.
On appelle ça une pas vraiment dans le ballon. Tu fais une petite pichenette. J'ai essayé dimanche, j'ai raté. Les doigts de pied sont recroquevillés. C'était très mal.
Voilà. On peut demander à Michael Landreau. Et c'est pas
toujours
très beau.
Par contre, tu demandes pas à Michael qu'on connaît.
Michael qu'on embrasse.
En fait, c'est un petit lobe et ça finit voilà, en feuille morte.
Voilà, c'est Panenka, il marque contre la France. Voilà. Résultat un partout, mais on s'en moque parce que la France est deuxième et la France est qualifiée pour le second tour.
Super.
Le second tour, on va rencontrer l'Autriche et l'Irlande du Nord. Et cette fois-ci, ce n'est que le premier qui passe pour les demi-finales.
Parce
que
les deux matchs.
Là, le premier tour, on finit deuxième derrière l'Angleterre, mais
et
on
là,
passe quand même.
C'est là qu'on voit que les règles changent selon les années. Parce que passer une première poule, on tombe dans une autre poule.
Après, on tombe contre l'Autriche et l'Irlande du Nord, qui ne sont pas des foudres de guerre.
Vrai ferme, Younes. Donc, le match contre l'Autriche, ça se passe plutôt bien. On gagne 1-0. Ouais. Et il y a un petit débat médiatique autour de l'absence de Platini. On se rend compte que Tigana, qui joue, joue beaucoup mieux quand Platini n'est pas là que quand il
en
est
fait,
là.
En fait, c'est surtout que Tigana joue déjà quand Platini n'est pas là. Et ensuite, et du coup, le milieu, Tigana est un peu plus défensif. Du coup, le milieu a plus de liberté. Du coup, est-ce que Platini ne joue
c'est
pas
c'est la grande valse des médias.
Est-ce
là,
que on... c'est mieux C'est pas mieux que Platini ne joue pas avec l'équipe de France. Spoiler, non. Hein, il faut qu'il joue. Hein.
Et Thibaut, comment ça se passe ensuite contre l'Irlande du Nord?
On les écrase, mais on n'aime pas trop l'Irlande du Nord. Moi, j'aime pas trop l'Irlande. toujours préféré la vraie Irlande, celle du Sud, là-bas. On gagne 4-1.
On va se faire plein de copains.
À noter un but de Lance Armstrong pour l'Irlande du Nord, qui réduit la marque. Ça, c'est intéressant. Un doublé de Gyrès et un doublé de notre Rocheteau,
l'ange,
Dominique.
L'ange vert,
tout à fait. Ouais. Et donc, on finit premier du groupe. Pour ce second tour, 4 points, on écrase les Autrichiens, les Nord-Irlandais. Allez, direction la phase finale.
Et oui, on va se diriger vers la phase finale, mais avant ça, je crois que Younes, c'est pendant ce match-là, surtout qu'on va voir Tigana, Platini,
Gyrès et Gianchini.
Je ne sais pas
quelle est la meilleure réponse que Michel pouvait donner.
Et donc, ça va être l'heure, Younes. On va vous expliquer ce que c'est que ce carré magique. C'est l'heure de la rubrique tactique.
C'est la rubrique tactique.
Youmi, c'est pas Zizou.
C'est la rubrique tactique.
Petit bonhomme, là, c'est pas Zizou.
C'est la rubrique tactique.
Muscle ton jeu.
C'est la rubrique tactique.
Si tu muscles pas ton jeu, fais attention.
Alors c'était un Gainsbourg, hein, bien sûr.
Ça fait du bien d'entendre Michael.
Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Bon, Younes, c'est quoi ce fameux carré magique à la fin?
Eh ben, c'est un théorème, le théorème d'Hidalgo. Alors un carré magique, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà un schéma mathématique où la somme des unités verticales, horizontales et diagonales est égale. Chaque unité du système se vaut et surtout interchangeable.
À 15. Voilà. Ah, enfin, quand il y en a 9. Quand il y en a 9 carrés, c'est 15.
Exactement.
Ramener cette. J'ai rien compris.
Pardon. Qu'est-ce qui vient de se passer?
Alors, il faut ramener cette analogie évidemment au sport collectif et vous avez une relation avec les sports. Avec les sports de balle. Et donc, la circulation.
Sport de balle?
Je crois qu'on est parti pour 2 heures.
Ouais.
je le sens.
Alors, c'est une contre-émission. Voilà, tout à fait. Dans la relation des circulations du ballon imprévisible pour l'adversaire et surtout. Inimitable. C'est théorisé à la base par un entraîneur soviétique de hockey sur glace, Anatoli Tarasov.
Je vais vous raconter son histoire.
Et je vais vous raconter son histoire. Alors, il naît en Sibérie. Fortement inspiré,
Franck Sibérie.
Oui. Fortement inspiré du jeu d'échecs, le carré magique ne peut prendre qu'avec des personnalités polyvalentes, donc surdouées techniquement. Et là, on a qui dans notre équipe? Au minimum 3 joueurs dans la stratégie du coach. On a, il se joue dans le camp adverse et surtout, il se pense surtout dans le camp de l'adversaire. C'est ça le carré magique, c'est prendre des risques et c'est faire rêver les gens. Donc, il nous faut des solistes avec surtout un esprit collectif. Ici, les talents, le carré d'as porte le nom de Platini, Gyrès, Tigana et Gianchini. et après 82, Fernandez. Ces noms sur un terrain de football, ça voulait dire la clé au milieu de terrain. Une révolution en France où l'histoire du jeu est bien pauvre depuis les années 50, comme on l'a vu tout à l'heure avec toi, Olivier. À base de permutations, voilà. Donc c'est interchangeable selon les postes, alors que dans le football, bah, quand on a un rôle, on le tient. Et bah là, non, on peut prendre celui du voisin quand, quand quelqu'un fait ce qu'on appelle un dépassement de fonction. C'est des passes au sol, surtout.
Oui.
Voilà, donc ça, ça nécessite quand même une vitesse d'exécution hors du commun. Les adversaires courent, c'est surtout les adversaires qui courent derrière le ballon et le jeu est pensé pour le plaisir de jouer. Et là, ça revient à ce que disait Michel tout à l'heure, le très juste Michel Hidalgo. Un plaisir que les spectateurs apprécieront et vont classer au sommet de leur souvenir. Un jeu romantique et solidaire, solidaire donc populaire.
Oh, merci.
C'est beau,
merci,
j'adorais.
Younes. Voilà ce qu'était donc le carré magique de l'époque.
Avec donc, comme tu l'as dit, Tigana, Platini, Gires et Gene Gini.
Et en tout cas, avec deux victoires lors de ce deuxième tour, la France est donc qualifiée facilement, finalement, cette fois-ci.
Pour le carré magique.
Pour le carré magique, les demi-finales. Thibaut, tu vas embrouiller tout le monde.
Oui.
Pour les demi-finales.
C'est dommage qu'il n'y ait pas Didier Six dans le carré magique.
Et ça devait jouer en triangle, en tout cas, dans le carré magique.
Oui. La demi-finale, ce sera face aux Allemands, mais avant de souffrir en vous racontant cette épopée, cette finale, cette demi-finale incroyable, je vous propose de souffler un peu en musique.
We'll be right back.
qu'est-ce qu'on a écouté, Olivier ? J'ai pas du tout dans le rythme.
Eh oui, comme d'hab. Enfin, non.
T'es viré. D'accord.
Ça va encore se régler au karaoké, ça. C'était Imagination, c'était le numéro 1 des charts de 82, en tout cas entre juillet et septembre 82. Et à titre prémonitoire pour l'équipe de France, Just an Illusion.
Juste une illusion.
Oh là 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 là. Et oui, parce que.
Savon.
Juste avant la pause musicale, l'équipe de France s'était qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du Monde. 24 ans après sa demi-finale perdue face au Brésil, les Bleus touchent du doigt leur rêve, accéder pour la première fois de leur histoire à une finale de Coupe du Monde. Personne ne peut encore imaginer que la soirée va tourner à la tragédie pour nous, pour les Bleus, pour les Allemands un peu moins. Mais pour l'instant, les joueurs se préparent à rentrer sur le terrain. Racontez-moi un peu cet avant-match.
Il faut savoir que Sarah s'est échauffée en même temps. Hein. Elle a fait des bras, des jambes. Voilà, là, elle a fait talons-fesses. Talons-fesses pour Sarah.
On vous mettra les images.
Et ben, on est au début juillet, Séville, et il fait 33 degrés.
Ouais. Donc, c'est chaud. Une atmosphère andalouse.
Andalouse. La soirée ne rafraîchit pas l'atmosphère. La France est en demi-finale. Elle n'est pas favorite, mais par contre, elle est apprécié du public espagnol, notamment local, qui préfère tout simplement le beau jeu proposé par l'équipe de France de Michel Hidalgo.
C'est le 8 juillet, c'est le jour de ma fête.
Joyeuse fête.
Ah, c'est rigolo parce que moi, c'est le 12 juillet. Et le 12 juillet, c'est 98.
C'est quand on a gagné.
Et le 14 juillet, c'est la fête de la France. Alors, Thomas, est-ce que tu peux nous dire quelques mots peut-être de l'équipe qu'on n'a pas affronté, l'équipe des méchants Allemands?
Alors, c'est une équipe d'Allemagne qui est favorite. La RFA est à ce moment-là deux fois championne du monde en 56 et 74, deux fois championne d'Europe en 72 et 80. C'est une équipe briseuse de rêves. En fait, ils ont été, un jeu très très pragmatique, un mental vraiment d'acier. C'était vraiment une équipe qu'on appelait rugueuse, mais je dois admettre que je n'ai pas regardé tous les matchs, mais en regardant ce match-là, j'ai trouvé, notamment sur les 15 premières minutes du match, qui jouait très bien au football. Alors, j'aurais voulu me renseigner auprès de Younes, qui a dû voir jouer l'Allemagne à cette époque. Younes, est-ce que c'était vraiment une équipe de casseurs? Est-ce qu'on peut dire
Younes,
que ça jouait
alors, Younes, il a vu l'Allemagne jouer, mais c'était plutôt encore. Hein. Ouais, c'était plutôt dans les années 40. Hein.
Et alors, Thomas, quelque chose qu'on a oublié de dire en antenne, quand tu t'adresses à Younes, il faut parler
beaucoup plus fort.
Ah oui, pardon.
Alors, non, tu n'as pas besoin, j'ai augmenté le volume de mon sonotone. En fait, effectivement, c'est un jeu rugueux, mais rien à voir avec des mecs hyper violents. Faut savoir que Franz Beckenbauer, qui est vocation défensive et pas du tout un peintre balle au pied. Donc la qualité footballistique, donc balle au pied, est un prérequis de base. Donc on n'est pas face à des gens qui sont juste à jouer de l'épaule et des coups.
C'est une équipe qui savait s'adapter à son adversaire surtout. C'est-à-dire que comme elle pouvait, ça ne la dérangeait pas de balancer des gros ballons s'il fallait balancer des gros ballons. Elle pouvait jouer au foot parce qu'elle avait des très bons joueurs. Et c'est surtout le mental allemand qui était très redouté parce que on connaît la fameuse phrase « Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et les Allemands gagnent à la fin oui. ». C'était ça. C'est-à-dire qu'ils ont écarté les Pays-Bas de Cruyff ou l'Argentine de Kempes en jouant moins bien, mais en gagnant toujours.
Et puis, finalement, même si elle était favorite, l'Allemagne, elle va mal commencer cette Coupe du Monde puisqu'elle perd contre l'Algérie 2-1 lors de son premier match et c'est vécu comme une vraie honte nationale. Mais ensuite, elle se rattrape quand même puisque au second tour, l'Allemagne écarte l'Espagne et l'Angleterre qui sont quand même deux grosses équipes.
Je parle juste rapidement de ce premier tour. L'Allemagne, effectivement, perd 2-1 contre l'Algérie et derrière, un petit arrangement en famille
L'Autriche.
Avec l'Autriche.
Ah, c'est incroyable ça.
Pour être sélectionnés tous les deux pour finir
en
premier.
En termes d'injustice, l'Allemagne commence à collectionner.
C'est une équipe qui n'est pas beaucoup appréciée. Ça change maintenant quand on se souvient du 7-1 de l'Allemagne au Brésil.
Et de l'Anschluss.
Où là, les Allemands jouent de partout, ils sont plutôt sympathiques en interview, etc. Là, c'est une équipe qui est très pragmatique, y compris dans son approche médiatique.
On peut dire qu'on les déteste ou pas ?
Et du coup, elle, en tout cas, à l'époque, beaucoup de gens les détestent.
En plus, c'est une équipe très sûre d'elle, et donc ça rend forcément les choses agaçantes.
Les prétentieux, on les aime pas.
Exactement. Peut-être quelques joueurs importants de cette équipe, rapidement. Thibaut, tu veux nous en citer quelques-uns ?
On l'a dit, c'est des joueurs athlétiques. On a les frères Forster et Stilicke en défense. Elle est entraînée l'équipe par Joop Derwall.
Forster qui jouera, un des deux Forster qui jouera d'ailleurs à l'OM, si je peux.
Ah oui.
Karl Heinz.
On a des profils un peu géants aussi en attaque avec Fischer, qui sera le deuxième meilleur buteur allemand de l'histoire en Bundesliga. On a ensuite Roubaix. Thierry Roland dira Roubaix, c'est pas Alain Delon. C'est assez beau. Je vous laisse vous imaginer le reste.
J'adore cette phrase.
Et après, on a des profils aussi de joueurs beaucoup plus petits et très techniques. On a l'ailier minuscule Lidzbarski.
Tu l'as bien aimé, lui,
Thomas. Je dois faire la confidence. Quand j'ai regardé ce match, j'ai dit, mais lui, il est trop fort. C'est mon héros, vraiment. Donc, ça fait que je ne sais pas si j'ai le droit. Mais,
Thomas, globalement, tu as regardé le match et tu étais pour l'Allemagne, en fait. C'est ça que tu es en train de nous dire.
Thomas s'appelle Thomas.
Voilà. Et tu peux enlever ce maillot, de, s'il te plaît, de l'Allemagne.
Oui, d'accord.
Floqué cross.
Et ce Lidzbarski que tu aimes tant, il deviendra une star au Japon.
C'est rigolo.
Étonnamment.
Et
ben oui, il reste. Vous voulez parler du gardien de but?
Oui, c'est qui?
Non.
C'est Harald Toni Schumacher.
Eh oui, voilà.
Eh oui, et là,
voilà, c'est tout.
Et là, voilà, quoi dire.
Bah rien, c'est le gardien de but de Cologne. Il est, voilà, c'est le nouveau gardien titulaire.
Alors, s'il y a une bonne nouvelle pour la France au début du match, et ça, on peut en parler.
Karl Heinz Rummenigge qui est blessé. Enfin, en tout cas, il est ménagé par l'entraîneur.
Ménagé, non mais blessé, il est blessé. En tout cas, on pense qu'il va peut-être pas jouer du tout de match, malheureusement.
On préserve. Voilà. En tout cas, il commence pas sur la feuille de match. Il n'est pas dans le 11 titulaire. Ouais. Voilà. Double ballon d'or, 80-81.
Voilà, donc ça va être une opposition de style, d'autant plus que les Allemands, le dernier match entre France et Allemagne, ça s'est pas hyper bien passé pour l'équipe de France.
On s'est fait un peu piétiner, voire ils se sont essuyés les chaussettes sur nous.
Alors, du côté des Bleus, qui est aligné? Quel est l'état d'esprit? Donc, je crois qu'on a le fameux carré magique.
Bah oui.
Notamment, Rocheteau, qu'on a annoncé blessé, est bien là.
Oui.
Et par contre, sur le banc de touche, il n'y a aucun milieu de terrain.
Ça, c'est assez étonnant de la part de d'Hidalgo. Pour le coup, je crois qu'il y avait Larios de Saint-Etienne. Je crois qu'il y a eu une embrouille. Je sais pas très bien.
Après,
et René Girard, qui est sur le banc. Je sais pas pourquoi il est pas sur.
Et dans le vestiaire, c'est comment? C'est calme, je crois. C'est
silence de cathédrale. C'est concentration, beaucoup d'émotions dans les regards. Les joueurs se parlent tranquillement. Ils sont assez sereins. Il n'y a pas tous les cris de guerre, etc. Il y a peut-être aussi, je sais pas s'il y a un impact, mais il y a peut-être moins de caméras qu'aujourd'hui. Du coup, peut-être que c'est une relation un petit peu plus intime entre eux. Voilà. Le fait est que c'est quand même, on sent beaucoup de concentration. Et
on l'a dit, le public dans les tribunes est plutôt favorable aux Bleus quand ils vont entrer sur le terrain. Petite ombre au tableau, on craint un peu pour la cuisse de Platini, qui apparemment est un peu fragile.
Et oui, c'est un peu la cuisse de Jupiter.
Mais bon, en tout cas, il est temps de faire place.
Cuisse de poulet.
Faire place au jeu.
La cuisse de grenouille.
Il joue à l'aile.
Le coup d'envoi.
Cocorico.
Le coup d'envoi, oui, pardon.
Comment se passe la première?
Allez, c'est parti. Il y a du jeu, il est dur ce jeu.
Il est dur, c'est de l'agressivité. Les Bleus ne rentrent pas complètement. Thibaut, tu vas nous le dire, ne rentrent pas complètement dans le match.
Non, ils rentrent pas complètement dans le match. J'ai dit trois fois, il est dur ce match, et l'autre con à côté, il a pas dit il est œufs durs.
Il dort là.
Bon, non, Harald Schumacher, il donne le ton. Agressivité de tous les instants de la part des
Allemands. Enfin, il faut savoir qu'Harald Schumacher, il donne le ton depuis l'échauffement. Hein. Depuis l'échauffement, il se vous aille dans Rocky 4, l'échauffement de Stallone, c'est pareil. Hein. Il soulève de la fonte, il tue des mamans, il fait n'importe quoi, Schumacher.
Et les Français, au début de match, ils sont un petit peu déstabilisés par cette stratégie. Oui. Ça fonctionne.
Il y a l'enjeu, et puis il y a aussi l'agressivité, en fait.
Et puis,
ils vont pas. Expression littéraire qui dit ils prennent le bouillon.
Ça se passe pas très bien. Hein. Même les Allemands sont agressifs et les Bleus ratent un peu tout quoi.
Ils ratent un peu tout. On aura finalement une première frappe française à la 6e minute par Giresse, mais on sent qu'on n'est pas au top globalement. Non.
Et il y a quelqu'un qui fait très mal à l'équipe de France, les amis. C'est le héros de Thomas.
Le héros de Thomas.
C'est ce petit monsieur que je découvre.
Le faux monsieur.
J'ai dit mais lui il est vraiment super fort. Ouais mais Thomas il fait partie des méchants. Bah c'est pas grave. Écoute parce que le petit ailier Lidzbarski, il est en feu, il fait très très mal, il presse et lui on le voit sur tous les ballons, je le vois balle au pied, il réussit des choses fantastiques, il est très souvent collé à la ligne droite puisqu'il est ailier droit sur ce match-là et il est vraiment très très bon.
Et il va faire très peur aux Français à la 14e minute puisque sur un coup franc il va
toucher la barre. À ce moment-là je me lève de mon siège, je regarde à gauche et à droite, personne ne m'a vu, tout va bien.
Et tu finis ton bretzel.
Voilà.
Ce qui te trahit souvent à la fin des séquences, c'est quand tu gueules Schnell. Là il y a quelque chose. Mais bon.
Je sais pas quoi faire de cet épisode.
Alors,
à la 18e minute, qu'est-ce qui se passe?
Remontée de balle de Breitner qui s'incruste plein axe, passe en profondeur pour Fischer, Il bute sur Ettori,
mais qui suit Thomas?
Dites Barskia. Donc ouverture du score pour nous, pour les Allemands, pardon.
Thomas, tu peux remettre ton pantalon, voilà, s'il te plaît.
Donc ouverture du score de l'Allemagne à la 18e minute.
Là, on a Thomas.
C'est mérité d'un point de vue footballistique.
Non, pour le coup, c'est mérité. La France ne voit pas le jour. Mais malgré tout, peut-être que ça va les libérer ce but parce que l'enjeu va s'estomper dans leur tête, oui. Et à la 27e minute de jeu, que va-t-il se passer?
Coup franc obtenu par Genghini, déviation de la tête de Platini pour Rocheteau qui est ceinturé par Forster. Penalty.
Mais c'est Pénoche.
Bernd Forster. Penalty. Dans la surface, penalty.
Qui va le tuer?
Tu étais pire que nous, Sarah.
Mais
derrière, tes jeux, c'est pas quoi faire.
C'est la pire
tu veux
de
la
tous.
Mort des Allemands. Ouais. C'est terrible.
C'est faux. J'aime les Allemands.
Et on ne rappellera pas son nom de famille. alors, penalty.
Platoche transforme tranquillement. Il tire à gauche.
Et oui.
Un partout.
Un partout. Ouais,
qu'on égalise. Et là, psychologiquement.
Ça va mieux quand même.
Ça va beaucoup mieux.
À partir de là, on joue vraiment bien.
Là, ça va être incroyable. Là, on va développer un jeu. Et là, peut-être. Thomas, il est un peu déçu. Parce que là, l'équipe de France va prendre le dessus.
Non. Là, étant une vraie girouette, je suis à fond derrière les Bleus. On est vraiment trop fort. Et ça, c'est l'équipe de France que je découvre.
Et c'est là, en fait.
Et c'est une vraie fierté.
Et là, faut voir. Enfin, Sarah. Enfin, je sais pas pourquoi Sarah. Je sais pas si t'es d'accord, mais tout le monde. Le match, il est incroyable parce que même visuellement, ça devient vraiment un théâtre. Les joueurs, ils crèvent de chaud. Ils ont les chaussettes baissées.
33
les protège tibia qui ressort.
Ils auraient pu jouer en petit slip. Ils auraient fait de l'audience.
Mais ils sont presque en slip parce que. Ils remettent les shorts, ils les rendent
les
un petit peu
très
machin,
courts, sont très courts, les maillots amples. Non mais c'est vrai que le protège tibia hyper bas, c'est Laurent Blanc qui faisait ça aussi, je pense, ouais. Que ses idoles devaient être de cette époque-là.
Bah, il y avait pas de protège tibia.
On dirait qu'ils en ont pas.
C'est vraiment le foot des années 80 comme on peut l'imaginer. Mais même visuellement, c'est très beau. C'est vraiment un film.
Les protèges tibia sont obligatoires très tard, en fait, dans les années 90.
D'accord.
Et du côté allemand, donc on tient quand même malgré le très bon jeu des Français. Et il y a quand même quelqu'un qui est toujours un peu agressif. Enfin, il y a quelqu'un qui est pas content sur le terrain.
C'est notre gardien.
C'est Harald, c'est Tony, c'est Schumacher.
Je suis Schumi.
Qu'est-ce qu'il fait Schumacher? Eh bien,
des petits coups d'épaule par-ci à Amorose. Il aime le contact. Inutile à Platini.
Il aime le contact.
Oui, il y a un ballon où Amorose va pour jouer le ballon. Il l'a pas. Schumacher le récupère et en faisant deux pas, il donne vraiment un coup d'épaule à Amorose complètement inutile. D'où l'expression de Thierry
Roland.
Roland qui dit ah ben c'est pas la vache qui est allée au taureau, c'est le taureau qui est allé à la vache. Magnifique. Et Schumacher s'essuie les crampons ensuite sur Six, je crois. Schumacher est dans son match, Schumacher en fait beaucoup et ça commence à énerver beaucoup les Français.
En fait, il essaie de les faire sortir de leur match.
Le
danger étant le carré magique, effectivement, et le jeu offensif.
Mais c'est, le problème du foot, c'est que, de tous les sports, mais le foot, c'est beaucoup moins un sport de domination, de phase, comme le rugby. C'est que quand tu as une phase possession ascendante, il faut toujours pouvoir marquer.
Il faut marquer,
parce que sinon, derrière, tu te fais souvent cueillir.
C'est un jeu de continuité, effectivement.
En tout cas, à la mi-temps, un partout, tout est encore possible.
Oui.
Hidalgo dit à ses joueurs, pratiquez un jeu de même qualité, c'est votre rôle. Moi, je suis responsable d'une défaite éventuelle.
Qu'est-ce qu'on l'aime, Hidalgo?
Est-ce qu'il en sera vraiment responsable de cette défaite?
Eh bien, vote pour elle, alors.
Responsable, mais pas coupable.
En route pour la seconde mi-temps. Comment elle se passe cette seconde mi-temps?
Les Allemands, ils changent pas. Ils sont toujours extrêmement agressifs. Ouais.
Psychologie, la même. Même ça, la même ambiance. Notamment Forster sur Rocheteau. Dès la reprise, les fautes s'accumulent, souvent non sifflées. Alors ça, c'est aussi un problème. C'est qu'on laisse bien jouer le match.
C'est rugueux.
Charles Corver, l'arbitre, a tendance à ne pas toujours prendre les bonnes décisions. Outre, on reviendra sur le fait majeur qui va arriver dans quelques instants, mais il ne prend pas toujours il annule un but de Rocheteau. Bon, il y avait peut-être faute, mais c'est pas forcément l'évidence même.
On précise que Corver, donc Charles Corver, était hollandais et il avait aucune raison de favoriser les Allemands puisqu'il avait perdu, enfin, sa nation, en fait, plutôt qu'une
justement,
raison.
C'est justement
raison,
parce qu'il est hollandais qu'il va y avoir débat ensuite. Ouais. C'est justement parce qu'il est hollandais. D'ailleurs, Larkin le dira dans le.
Il y a débat, mais moi je suis pas d'accord. Je pense qu'il aurait aucune raison de favoriser les Allemands.
En tout cas, toujours est-il.
On l'a vu blaguer.
En tout cas, il y a quelqu'un qui rentre sur le terrain à la 51e minute, c'est Batiston.
Oui, en remplacement de Genghini.
Exactement, je voulais pas redire son nom. en général, quand tu rentres sur le terrain, t'es content. Tu vas jouer, tu te dis que ça va être sympa. Et ben là, pour Batiston, ça. Ça va pas très bien se passer puisque à la 57e minute, Platini le lance en profondeur. Ils évoluent ensemble à Saint-Etienne, ils se connaissent très bien. Et la suite est entrée dans l'histoire du football. Écoutez.
Bonne balle de Platini pour Baptiste.
À côté.
Aïe, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Et encore une fois, et encore une fois, Schumacher.
Il a pas fait le voyage.
Non, regardez, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Voilà.
Ah oui.
Alors, une fois, ça va, mais ça échappe chaque fois à ce corner. Oui, il est fou, ce Schumacher.
Et je pense que... Fait remarquer à Schumacher. Logiquement, l'arbitre de touche devrait le signaler à M. Corvert, car le geste de Harald Schumacher a été un geste tout à fait inadmissible.
Regardez M. Jeté, c'est un récidiviste. Et regardez, surtout, regardez, regardez M. Jeté. Oui. Tout à fait, Monsieur Corvert porte une lourde responsabilité. Il a été impuni pendant 45 minutes. Il continue.
Oui.
C'est tout simple, c'est aussi simple que cela. Alors que les Français ont déjà utilisé un joueur et que... Matisson est bien sonné pour le compte.
Oui, oui.
Eh oui, monsieur Corvert.
J'ai l'impression que c'est même assez grave ou sérieux, en tout cas, pour le joueur de Saint-Etienne.
Que Michel Hidalgo, très inquiet, a l'air d'aller aux nouvelles.
Alors que l'arbitre, là, aurait dû siffler un deuxième pénalty en faveur de l'équipe de France. Car la faute du gardien est absolument indiscutable.
C'est vrai.
Il n'a pas fait le voyage pour rien.
Il n'a pas fait le voyage pour rien. C'est terrible.
Que s'est-il passé?
Je ne l'ai pas souvent revu, cette action.
Baptiston,
elle est vraiment violente.
Elle est vraiment violente.
Si tu veux la revoir, tu te mets le best-of des sorties d'Anthony Lopez. C'est à peu près la même chose.
C'est vrai.
Baptiston court avec son petit ballon dans les pieds vers le but allemand. Et Harald sort pour aller vers lui, pour essayer de l'arrêter, comme le fait normalement un tout gardien.
Le gardien vise le ballon.
En général, vraiment.
Et lui, s'en fout.
Techniquement, il n'a pas le ballon dans les pieds, Baptiston. Oui. C'est la balle de Platini
qui arrive.
En fait, les deux regardent le ballon. Baptiston et.
Merci de.
Et Schumacher. Et Schumacher, il voit que de toute façon, Baptiston arrive. En tant que gardien, il doit à un moment donné savoir qu'il ne peut pas le percuter. Sauf qu'il fait tout pour le percuter. Oui. Et l'image est ultra violente. Et on est très inquiet pour la santé, même physique, de Baptiston. Même,
il s'écroule, il ne bouge plus. Hein.
On a vraiment très, très peur pour sa vie, en fait.
Platini, il croit qu'il est mort.
Ouais. Ouais. Et on sent que Platini, il est hyper inquiet, il lui tient la main quand il sort sur la civière, il bouge quasiment plus, il y a du sang, enfin c'est voilà, enfin il va faire un coma, il va avoir des cervicales touchées, dedans en moins, c'est quand même pas cool. Et
pas de carton jaune.
Alors il y a plusieurs problèmes. C'est que un, l'arbitre ne fait rien, ni carton jaune ni penalty. L'autre problème, c'est quoi? C'est que c'est l'attitude.
Schumacher, lui, en fait, il est carrément jamais ressorti de son personnage, c'est-à-dire un odieux connard. Et
pour le coup.
Non, mais c'est vrai qu'il n'a pas un regard.
Thomas, il est gêné un peu.
Non, parce que je fais pareil, Sliders, monde parallèle. Il y a peu de temps, il y a un joueur coréen qui s'appelle Heung-Minson qui a blessé très gravement un joueur portugais, il me semble, qui s'appelle André Gomes, si je dis pas de bêtises, qui jouait à Everton.
Tout à fait.
Dans un match Tottenham-Everton. Et il le blesse, il se rend compte qu'il lui a fait très très mal. André Gomes est blessé pour de longs mois. Je crois que c'est le tibia qui part, je suis pas sûr, je connais pas. Mais on a le joueur qui blesse l'autre, qui fond en larmes totalement, qui va s'excuser et on le voit pleurer et on sent qu'il est honnête.
Voilà, il y a une empathie. C'est pas vraiment ça.
Là, Schumacher, il mâche son chewing-gum et puis il est bien. Puis à la limite, bon, on y va les mecs là, parce qu'il est temps qu'on prenne le match. Quoi.
C'est presque ça.
C'est l'insolence à l'état pur.
C'est exactement ça. Et il pose le ballon sur le coin des 6 mètres pour faire son engagement, comme s'il était persuadé en plus qu'il allait pas y avoir de pénalty. Il a les bleus, les supporters de l'équipe de France derrière lui, ils s'en tamponnent le coquillard et ils les haranguent même.
Mais c'est vrai que c'est une stratégie qui est assez rare parce que tu peux avoir le rôle du faux connard où tu joues comme un salaud fini mais tu fais semblant d'aller t'excuser comme tu dis à chaque fois ou tu fous en larmes et là c'est réel.
Oui,
lui vraiment il a le rôle intégral.
Là, pour une fois on aurait bien aimé l'arbitrage vidéo.
Ah non, alors tu ne feras pas dire ça. Non, ça c'est...
N'exagérons rien.
Non, mais... l'arbitrage vidéo ou Luis Fernandez qui arrive un peu plus tôt et qui fonce sur Schumacher.
On aurait aimé le check là. Jawad
le frère cadet.
Non mais c'est surprenant, enfin le
bon, surtout il faut juste des mecs qui font leur boulot en fait correctement.
On reviendra sur la polémique, voilà, le juge de touche on sait pas trop parce que l'arbitre lui dira que vraiment il regardé le ballon, il a pas vu l'action. Et il y a plusieurs joueurs sur le terrain, même français, qui disent
qu'ils ont pas vu. Parce
on a pas trop vu en fait.
Tout le monde est focus ballon, mais il y a un moment donné où un choc d'une telle intensité.
C'est quand même bizarre.
C'est pas possible. Et
problème tactique.
Problème tactique, c'est-à-dire
là,
que la tactique d'Hidalgo qui en fait a déjà fait rentrer un joueur. Et à l'époque, c'est deux changements.
C'est pas beaucoup.
C'est pas trois. C'est déjà, j'ai trouvé ça incroyable parce que il fait 63 degrés à Séville et il a fait rentrer un joueur Baptiste qui était déjà un défenseur à la place de Gengini et là il doit faire rentrer un nouveau joueur, encore un défenseur,
Christian Lopez.
Christian Lopez qu'on connaît bien puisqu'on en parle dans l'épisode de Saint-Étienne de 76,
le frère de Jennifer.
Le frère de Jennifer, ouais, tout à fait, et qui en plus est pour le coup un peu encore moins technique on va dire que Baptiste, et qui rentre, quand il rentre sur le terrain il demande à Michel Platini où il doit jouer parce qu'il comprend rien. Ça va faire rien par contre.
Et puis surtout, ça y est, on a utilisé, donc comme tu l'as dit,
tous les jokers.
Imagine s'il y a, s'il y a prolongation.
Imagine.
Non, on n'ira pas jusque là. Mais
ce qui est marrant,
ça aurait pu.
C'est que ce qui s'est passé avec Baptiston, ça peut te tuer. Enfin, tu peux.
Mais nous,
penser...
ça nous tuera pas.
Exactement, Thibaut. Parce que moi, à la place de Platini, je serais tellement inquiète pour mon petit camarade que je suis pas sûre que j'arriverais à jouer.
Mais ça, c'est ton côté très sensible et
C'est pour ça que je suis pas une championne de foot.
C'est pour ça que t'étais sur le banc pour la demi. Sinon, tu serais sûrement rentré. Nous, ça va nous transcender.
Oui.
Et Ettori dira, la sortie de Baptiston a décuplé nos forces, cette agression nous a surmotivés, avant nous étions 11, après nous sommes 50 millions, on ne touchait plus terre. Donc là on a véritablement, on avait parlé du public, on disait que le public était plutôt pro-français en début de match, là il devient carrément archi-français.
Il y a quand même 20 millions de français en plus aujourd'hui.
Et là, il y a clairement l'arqué je me suis fait rire tout seul dans les notes puisque j'ai noté l'arqué lui veut à deux doigts de casser les gueules. Oui. Ça m'a fait rire.
Ah, les deux sont enroulés.
Ah, ils sont enroulés, mais l'arqué encore plus. Là,
à l'arbitre, c'est déchaînement. Bah,
c'est là où Corver en prend plein tête et c'est là où l'arqué dit j'ose espérer que Corver ne fait pas ça parce qu'il est hollandais, sous-entendu qu'on a éliminé les Hollandais à la Coupe du Monde et du coup l'arbitre se vengerait
pour se qualifier.
Pour se qualifier, tout à fait. Pour se qualifier à la Coupe du Monde, on les a éliminés. Du coup, l'arbitre se vengerait.
Oui, grosse rivalité entre les Hollandais et les Allemands, quand même. De l'après-guerre et très. Mais
oui, c'est pour ça que je pense que la théorie de.
Était acheté.
Ah oui. Ah, ça c'est autre chose. S'il est corrompu.
Remettez-moi un petit verre de pinard.
Ah, parce que on en reparlera plus tard. Mais l'arbitre sera vu à l'aéroport en train de plaisanter avec la délégation allemande, vraiment comme cul et chemise.
Ah, ça c'est autre chose.
Donc, en tout cas, les esprits s'échauffent. Sur le terrain, les Bleus sont plus forts, clairement, maintenant. Mais malheureusement, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, quand on est les plus forts, il faut marquer. Les minutes défilent et les Bleus ne marquent pas. On arrive à la fin du temps réglementaire. Et malheureusement, il va falloir jouer les prolongations.
C'est terrible, c'est irrespirable. On finit sur une barre d'Amoros. On aurait pu marquer à ce moment-là. Les Allemands presque marquent aussi. Ça peut aller dans tous les sens, la fin de match. Et non, finalement, prolongation. On a très peur. On ne sait pas ce qui va se passer.
Exactement. Et donc, c'est parti. C'est parti pour les prolongations. On va bientôt arriver au bout de cette épopée. À la 93e minute, un coup franc obtenu par Platini. On a envie que ça passe. On l'a dit tout à l'heure. Platini.
Ouais. Côté droit, côté de la défense, donc à 2 mètres de la surface.
Oui.
Gires le tir et centre pour Marius.
Eh oui, ton héros, ton autre héros.
Ah, enfin, l'autre héros, le grand.
Je l'ai appelé Trezeguet dans l'autre sens. Parce que pour le coup, c'est
Trezeguet.
Que le ballon arrive de la gauche, là, il arrive de la droite. Et c'est une reprise acrobatique, moitié pivot, tout ce que vous voulez, ce qui finit sous la barre, c'est comme on dit dans le jargon littéraire, une choumette sous la barre. le but est magnifique. 2-1 pour l'équipe de France. Là, je suis aux anges, je déteste cette équipe d'Allemagne.
Je déteste le parti.
Voilà. Allez.
Toi, t'as 22 héros ce soir, ça c'est beau.
On y croit, ça part dans tous les sens, les Allemands essayent de réagir, ils mettent la pression et à la 19e minute, écoutez ce qu'il va se
super bingo.
Passer.
Tout de suite joué pour Rocheteau là,
oui.
Qui est encore dans son camp.
Rocheteau face à Foster. Platini. Dick.
En retrait pour Gires,
Il a pas vu.
Voilà, oui.
Et les Français qui sont pratiquement
crier suffisamment fort à Didier Six. Extérieur du pied, intérieur du poteau et but pour Alain Girès. 3-1.
On va vivre un dénouement extraordinaire. Il nous dit ça.
C'est terrible. C'est terrible.
La France est presque en finale.
Il reste quoi 10-15 minutes à jouer.
Mais là, c'est gagné, là. 3-1 à ce moment-là du match.
Si on arrêtait l'épisode là-dessus.
Allez, on a gagné. Champion du monde.
Et la semaine prochaine, on fait la finale, France.
On refait l'histoire. Non, malheureusement.
Ouais. Parce que la France continue à jouer. La France est une équipe romantique. La France, Hidalgo, veut du plaisir.
Ça, elle nous en donne. Mais ma rue, elle est pas propre en attendant. Ah non, merde.
Alors que il va falloir encore couper. Tu es content, Thibaut? Non, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait normalement quand on mène 3-1 là,
voilà,
à la fin?
On
met les barbelés.
On met l'autobus, comme dirait
On se fait des petites passes entre nous. On fait la passe
on
à
fait
10.
Des petites passes.
Non, c'est vrai. Enfin, voilà, là, on est censé tout bloquer. Et puis en plus, il y a un moment, ce but de Giresse, la célébration qu'il fait. C'est-à-dire, on n'est pas dans tout le cinoche qu'on a maintenant, les célébrations. Oui. On vient se mettre devant en croisant les bras, par exemple. Je ne cite absolument personne. Disant ça. Mais voilà, là c'est vraiment, on sent l'émotion pure, peu comme mon grand ami marseillais Franck Ribéry quand il marque contre l'Espagne. Voilà, ils courent, ils sont comme des malades, le poing serré.
C'est sincère.
Là, on n'a pas le droit de perdre. Enfin,
que maintenant ils tweetent quand ils marquent.
Là c'est gagné, c'est trop beau. Enfin, tu vois, voilà,
c'est sincère. Ouais,
voilà, il y a une sincérité qui est hyper belle dans ce but et dans toute la suite.
La France continue de jouer. Fatigue, on sent que les Bleus fatiguent et les Allemands
n'ont plus de remplacement.
Exactement.
Et les Allemands ont un remplaçant, ils ne font pas rentrer n'importe qui. Ils font rentrer Karl-Heinz Rummenigge.
Qu'est-ce qu'il va faire, Karl?
Qui à la 104e minute de jeu.
Alors déjà,
il faut savoir que sur c'est un scandale. Il y a faute sur Giresse, puis après il y a faute sur Platini.
Exactement.
Rien n'est sifflé par cet arbitre c'est Gilbert Montagnier. Et c'est un scandale. Il y a faute et ça se voit. Même moi, avec les pixels sur Dailymotion, je l'ai vu.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de fautes.
La RFA, qui est quand même pas maladroite, remonte le ballon. L'autre héros de Thomas, là, Libarski, trouve Rummenigge et d'une magnifique petite pichenette. 3-2 pour l'Allemagne. Les Allemands reviennent. Alors là, il faut faire attention.
Et Thomas crie dans nos oreilles de plaisir, de bonheur.
Il reste 12 petites minutes à jouer. C'est irrespirable. Il fait de plus en plus chaud dans les chaussettes. Et les Allemands attaquent désormais de partout.
Ouais,
et là, effectivement, le carré magique, là, à ce moment-là, il a complètement explosé. Il a complètement explosé.
C'était plus que le triangle magique.
Younes fait un deuxième malaise vagal, il demande du sucre, enfin, on n'en peut plus.
Et à la 108e minute,
qu'est-ce qui se passe, Thomas, à la 108e minute?
Un centre d'un joueur que je découvre, Litz Barski, qui trouve la tête du géant Rubesch, qui n'est certes pas l'un de long, mais qui saute très très haut. Il fait une remise pour Fischer, qui marque d'un magnifique retourné acrobatique nouveau. Et il est encore plus beau que celui de Marius Trésor, il faut dire.
Le but est magnifique.
Et là, t'es content.
Très beau but.
Il est partagé.
Je suis embêté parce qu'il est parti à centrer, mais du coup, tu sais, je me suis dit, peut-être qu'il va pouvoir lui remettre avec la retournée, mais comme c'est pas lui qui marque. Non, là, j'avoue que je suis un peu triste parce que je m'étais pris de.
Bah, t'attends les terreaux, tu vas savoir pour qui tu vas être à la fin.
Je suis toujours pour le nul.
Ouais, mais là, on sait plus qui est nul. J'ai rarement vu une fin de match comme ça, dira Thierry.
Et ça fait 3-3 et la solidité, le mental des Allemands a encore une fois parlé. Ouais. Exactement. Une équipe qui refuse de perdre alors que les Bleus ont peut-être été un peu trop romantiques. Ils ont continué à jouer. Ils ont été
un peu naïfs,
un peu punis.
Et oui.
Direction les tirs au but. On va faire ça simple. Donc, comment ça se passe les tirs au but? Il y a 5 tireurs par équipe. Ouais. Chacun tire à son tour. Et celui qui a mis le moins de buts sur les 5 perd.
Voilà.
Là, qu'est-ce qui va se passer finalement? Ça va être serré. Oui. On va finir à 4-4. Hein?
Oui, en gros.
Psychologiquement, ils ont Schumacher devant eux.
Et en plus,
ils ont chacun leur mimique. C'est-à-dire que là où Giresse, quand il va tirer le penalty, il va se retourner pour ne pas le voir parce qu'il est un peu impressionné. Parce que pour le provoquer, Amorose va faire exprès de mâcher ostensiblement son chewing-gum.
Ouais. En limitant aussi.
Stilicke rate, mais Didier Six rate aussi. C'est horrible parce que Didier Six voulait pas tirer ce tir au but.
Oui, il voulait tirer le dernier.
Voilà, Platini lui dit non, c'est moi le dernier. Platini marque, bref, tu l'as dit, 4-4. Et du coup là, c'est la mort subite, c'est-à-dire que le premier qui rate, il est paumé. Et c'est le grand Max qui arrive.
Exactement, ouais. Mort subite. Et qui de mieux que Thierry Roland et Jean-Michel Larquet pour nous raconter la fin de l'histoire.
Le grand Max. Alors que vous en doutez, pas un spectateur n'a quitté les gradins de Sanchez-Pizjuan.
plus de deux heures d'un spectacle pathétique avec ce pénalty.
Bossis.
Lui qui a fait un match admirable.
C'est maintenant Roubaix qui se présente. Et si Roubaix marque son pénalty, eh bien c'est l'Allemagne qui disputera dimanche contre l'Italie la finale de la Coupe du Monde.
Plus alors que
ah ouais,
les Allemands se congratulent. Terrible. C'est un match terrible pour les 13 Français qui ont participé à ce match.
C'est terrible.
T'es content, Thomas?
ça te fait plaisir?
Non, j'étais un petit peu triste. c'est dur. Ça,
ah oui, c'est dur.
Je l'ai pas vécu, mais ça me rappelle quelques souvenirs de penalty raté.
Ouais, puis le 2006. C'est terrible parce que c'est la stupeur. Tout le monde pleure. Marius Trésor qui fait 8m27. On dirait effectivement. On revient à l'extrait d'Hidalgo du début. Il y en a qui restent une heure dans la douche. Aucun joueur, quel qu'il soit, ne mérite ce qu'on a subi ce soir, dira Hidalgo. Le Trésor lui reprend l'idée du complot de Corver.
Ouais.
Que c'était plus valorisant d'avoir une finale Allemagne-Italie que France-Italie. Bon.
Voilà.
Je n'y crois pas, mais bon, en tout cas, bon, bah voilà.
Il y a deux déclarations des Allemands qui font un peu mal en fin de match. Il y a celle de Roubaix qui dit « j'ai pas pitié pour eux, on n'était pas responsables, ils n'avaient qu'à s'en prendre à eux-mêmes ». Chose que Trésor dit, il dit « on a joué comme des cons ». Voilà. Ouais.
Non mais, et puis dire que ils ont pas été réalistes, pragmatiques au moment bien où sûr. Ils étaient supérieurs dans le jeu. Ils ont pas réussi à marquer non plus, malheureusement, même si l'histoire est tragique.
Et la déclaration de Schumacher qui dit quoi, il a perdu dedans, je payerai.
Non mais ça c'est vraiment quel personnage.
Bout,
pas, mais il le fait exprès en fait, il a envie
il
d'être détesté.
Il
aime
exprès,
ça.
C'est son rôle. Faut savoir que il avait peut-être pris des petites choses le Harald Schumacher donc.
D'habitude on devient raciste qu'à 23h mais là il est 22h.
Il le dit dans sa bio. Il a écrit une bio coup de sifflet en 87 où il dit que L'Allemagne avait pris, les Allemands avaient pris un produit pour stimuler l'agressivité des joueurs.
Ça, c'est fou.
Il marche super bien, le produit.
On appelle ça du dopage.
Voilà. Non, parce qu'avant, il devenait vert, tu vois, très musclé, vert. Mais bon, bref. Et
attendez, quand même, l'Allemagne va quand même perdre en finale.
Contre l'Italie.
Pour la première fois que la France est dernière sera vraiment pour l'Italie.
C'est une première fois pour tout le monde parce que c'est la première fois qu'un pays est champion du monde en gagnant aucun de ses trois premiers matchs. Ouais. Là, l'Italie.
Je crois que tu allais dire en gagnant aucun de ses trois
premiers matchs. Aucun match.
Tire au but.
Le Portugal le refera, non?
Ah oui. Ce sera terrible pour l'après. L'après
France-Allemagne.
La France devient clairement anti-allemande pendant quelques mois.
C'est un peu horrible. On en revient à des insultes de type 39-45. Enfin, on est limite
on citait des nazis, tu vois. Dans le genre, franchement, je peux pas le comprendre, ça.
Il y a vraiment des titres haineux. Il y a le Schumacher, le peuple roi tapot. Il y a, on l'appelle le tueur de français. Et le pire, c'est ce dénommé Janko qui va dire dans Paris Match, tout est guerre de 14 à 40, de 82 où pour la première fois en un siècle la France rencontrait l'Allemagne. Pour la troisième fois en un siècle la France rencontrait l'Allemagne dans un match capital et sur le champ de bataille de Sévigné. Donc déjà n'importe quoi. Je sais que nous dirons vite que là c'est du sport, mais bon. Mais le fascinant, l'étrange, le troublant spectacle. D'un côté l'Allemagne dans la force et la puissance de ses divisions blondes et rousses, de l'autre la France et ses héroïques petits.
Ça va
fait mal ça, Thomas.
Ça va très loin.
La germanophobie va très loin. Schumacher est traité de tueur de français. Ça va tellement loin que ça devient même politique, puisque à l'époque, Helmut Schmidt se sent obligé d'envoyer un petit télégramme à Mitterrand. Ouais. Pour essayer de dire quand même, nous sommes de tout cœur avec les Français.
Copain.
On est copain.
On va pas tout gâcher.
Peut-être quelques mots sur l'après. Baptiston, peut-être qu'on peut écouter.
Bah, on pense à lui surtout.
Parce que c'est dur quand même pour lui.
Bah oui, il est sorti inconscient.
Et oui,
il se rappelle plus vraiment des images.
Et oui, c'est ça. C'est
ce il reprendra, il loupera même la reprise du championnat avec Saint-Etienne. Donc c'est vraiment quand même une grosse blessure.
Ouais.
Et oui, tu disais qu'on pouvait l'écouter. Écoutons-le.
Baptiston, est-ce que les séquelles physiques sont aujourd'hui encore présentes? Et je le crois après 32 ans.
Après 32 ans, oui, sûrement. des problèmes, oui, j'ai quelques petits problèmes. Mais c'est vrai que j'ai des petits soucis récurrents, mais bon, il y a de bons dentistes sur la place, mais c'est vrai que c'était parfois gênant. Alors, vous voyez, le temps est un peu nuageux aujourd'hui. En règle générale, lorsqu'il y a un changement de temps, j'ai mal dans la nuque parce que j'ai eu un petit problème au niveau d'une cervicale. Mais à part ça, tout va bien. J'ai toute ma tête de temps en temps, j'ai des absences. Voilà, ça peut m'arriver, mais aujourd'hui, ça va particulièrement bien, oui.
C'est vrai que c'est un ordinateur qui transcrit ce qu'il dit, hein, parce qu'il ne peut pas parler.
Pour reprendre ce que disait Thibaut, il va quand même mettre 79 jours à rejouer au foot après le choc. C'est quand même énorme.
Ouais.
Et pour Schumacher, ce n'est pas non plus la bomba.
Bah, ce n'est pas terrible.
Non, parce qu'il sera insulté sur pas mal de terrains. Il sera pris pour cible par pas mal de supporters. Il sera, on l'a dit, détruit par les Bleus et les Français. Ça, la limite, il s'en fout.
À noter que
c'est pas un mauvais bougre.
Dans son pays, en fait. Dans son pays, il n'est pas forcément...
Dortmund à la reprise,
oui, parce que
bien sûr.
Il joue bien ce rôle de gentil salaud.
Ouais, mais tu vois, il y a plein de moments où tu le vois faire des gestes de fair play, etc. Tu vois, c'est très étrange.
Il aime cette redingote, ouais.
Voilà,
et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il regrettera jamais son geste, qu'il dit je le referai s'il fallait le faire. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, peut-être que l'Allemagne gagne grâce à ce geste, même si c'est terrible, est-ce qu'on doit être fier, j'en sais rien, mais c'est la vérité. Il y aura une rencontre qui sera organisée entre les deux, mais globalement...
Non, on s'en fout.
Pas très à l'aise.
L'éphédrine a mis le moral dans
l'éphédrine
et ses joies,
Sarah.
Et Charles Corver, l'arbitre.
Eh ben, rien, il finira chez Heineken, voilà. et par contre, on dira que c'était l'un des plus mauvais matchs qu'on a jamais vu d'un arbitre, voilà. Bon.
Voilà. Alors, on va quand même finir peut-être cet épisode sur une note un peu positive, car cette défaite marque aussi l'entrée de la France dans la cour des grands et restera bien sûr dans l'histoire du sport.
Oui, pas dans la cour des glands, parce qu'on y était avant et là, ça va mieux.
Et là, on sort de la cour des glands.
Oui. Qui, vous avez donné cette défaite, c'est votre plus belle victoire. Voilà ce que dira Hidalgo.
Ouais.
Et c'est bien, et c'est ce qui va se passer. Ils gagneront l'Euro en 84 avec un Platini qui marche sur l'eau.
Mais oui, 2 ans plus tard, la France organise l'événement et puis au Parc des Princes.
Et oui, tout à fait. Et en 86, on se fera encore éliminer par les Allemands. Mais on ira en demi-finale encore. Donc c'est peut-être que c'est ce qui a amené aussi tout ce qu'on a connu, nous, de façon vraie.
Oui, moi je pense que ça a été le socle même d'une philosophie même. Voilà.
Eh bien écoutez, merci beaucoup. Si vous n'avez rien à ajouter, je vous propose de passer à l'anti-doping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc il fallait faire la petite chose.
Et c'est à toi, Thibaut, qui revient l'honneur.
Tout de suite, je ne vais pas vous remonter le moral.
Oh, oh non.
Allez. 2h30 qu'on fait ce podcast et il n'y a pas une personne pour nous donner un sourire.
Fermez les yeux, nous sommes le 13 novembre
1993. Oh non.
On est sur le fait déjà, ça. C'est pas vrai.
Mise en situation. Younes fête ses 50 ans au Parc des Princes. Il réajuste son jean Louis Vuitton en remettant sa casquette de la base de loisirs du lac artificiel de Créteil. L'air satisfait, apaisé, heureux.
J'ai appris à faire du dériveur sur le lac de Créteil.
Les vannes sur le lait entier fusent dans les tribunes. Cop Younes. Tout est prêt. Après le désert post du monde 1986, la France va enfin rejoindre la cour des grands, le cénacle des puissants. La Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Une Coupe du Monde à 24 pays, non pas à 32 ou 128 comme avec Blatter ou avec Infantino par la
Sepp.
Aux États-Unis, Olivier attend déjà Younes. Sa comédie musicale Vierzon Forever cartonne à Broadway. Chloé n'y comprend toujours rien au football. Elle l'attend aussi, mais elle s'est trompée de Dallas. C'est pas Dallas aux États-Unis, c'est Dallas dans l'Allier. Bref, on peut pas trop lui en vouloir. Chloé n'a que 6 mois. Sarah, elle, est devenue une star du yoga dans une communauté amiche. Et l'été 94 lui paraît encore très loin. Elle le sait, elle, que la France n'est pas encore qualifiée.
Oui.
C'est le soleil, la lune et son ascendant bélier qui lui ont dit. Elle n'a pas tout à fait tort. Enfin, Thomas, lui, est resté à Stuttgart avec son papa. Il est en stage chez Siemens avec papa Liberski.
Siemens.
Siemens. Soudain, à 22h47, Younes...
Ah.
Tu te rassois. Abattu, poignardé, non pas par ton pacemaker qui fonctionne très bien, mais par ce diable d'Emil Kostadinov, l'attaquant bulgare qui donne la victoire à la Bulgarie et envoie les yaourts entiers aux États-Unis.
Et oui. C'est très gras. Hein,
Râpé pour
bulgare.
La France comme oui. Le fromage, Younes.
Oui.
Et oui. Débranchez-moi ce micro, c'est une horreur. Ah là là, comment en est-on arrivé là, alors que tout était gagné? Le drame s'est noué en deux, voire en trois actes.
Ah.
Et oui, la France entraînée par le grand...
Didier Deschamps?
Non,
Gérard Houllier.
Gérard.
Eh oui, Gérard Houllier. Bon, elle a très mal débuté les éliminatoires, je vous fais ça rapidement. On perd le premier match, on a gagné 6 de suite, il ne nous reste qu'un point à prendre, ça va être super.
Il reste de match.
Facile.
Voilà, il reste de match.
Facile.
Et déjà, le match d'avant contre la Suède, il nous suffisait d'une petite victoire. On l'a pas eu. Égalisation suédoise. Bref, c'est la merde. Rendez-vous au Parc des Princes le 13 octobre 93. Donc, un mois avant le France-Bulgarie odieux.
Oui, et là, on reçoit ?
On reçoit Israël. Israël, c'est un nain du football. C'est un nain du football en 93. C'est un nain du football en 2021. C'est tout le temps un nain du football.
Et là, personne n'ose faire sa blague. Hein,
hein.
J'ai trop de procès.
Israël vient d'enchaîner 17 matchs sans victoire sur les 18 derniers mois. On dirait Malherbe sans Jean-François Fortin. Les Bleus s'entraînent un peu trop dans la bonne humeur. Au Parc des Princes, c'est drapeau américain dans les vestiaires et l'Amérique de Joe Dassin pour le public à la mi-temps.
On est arrogant, ça y est.
Sur le terrain, en revanche, Olivier, c'est pas l'Amérique, mais la Bérézina.
Oui.
Mais oui. On prend un but rapidement. De Sailly, Blanc, Petit, les héros de 98, ou d'autres qui ne sont pas des héros de 98, le Gwen par exemple. Qui vont se trouer gentiment et on perd 3 buts à 1 contre Israël. 3 buts à 1, c'est quand même vraiment sacrément dégueulasse. Je vous ai dit, je crois avoir noté que les Israéliens n'avaient pas mis 3 buts depuis 30 piges et que nous, on n'en avait pas pris 3 à domicile depuis 20 piges. Donc ça donne une idée.
Il y a peut-être qu'à ce niveau-là, il y a un petit problème de mental, hein, si je peux permettre.
Surtout dans les 10 dernières minutes à chaque fois, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose.
On range les feux d'artifice.
Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, on avait réservé une boîte de nuit pour fêter la victoire. Et que
David Guetta.
La boîte de nuit, elle est quand même restée réservée et tout le monde est venu faire la fête quand même.
Donc là, parce qu'on se dit qu'on va.
Bah ouais, on se dit c'est pas grave, il y a France-Bulgarie, on fera attention dans les 10 dernières, ça va y aller. Quoi.
Les Bulgares.
Vous connaissez le refrain, il suffit d'un point pour se qualifier. La Bulgarie, elle a besoin d'une victoire, donc on se dit qu'on va affronter une équipe qui joue.
Quelle hargne.
La France débute bien, on a Cantona, qui joue pas si mal que ça, qui marque, Kostadinov égalise, un partout à la mi-temps, tout va bien, on est qualifié. Mais la France commence à déjouer, elle est nerveuse, elle joue avec le nul en tête, elle oublie de jouer sur les défauts des Bulgares, qui sont pourtant nombreux. À force de reculer, la France encaisse ce terrible deuxième but que tout le monde craignait sans croire qu'il pouvait arriver. Il faut trouver un bouc émissaire. Ce bouc émissaire,
c'est El Magnifico,
David Ginola.
David Ginola, évidemment, c'est un très bon joueur, entré à la 70e minute. Le sélectionneur Houllier l'accuse de crime contre la cohésion d'équipe au vestiaire. Alors c'est vrai, Ginola s'était beaucoup plaint de son manque de jeu en équipe de France depuis des mois et des mois. Sur la dernière action, vous la connaissez tous, il joue le coup plutôt offensivement au lieu de rendre le ballon. Enfin, il rend le ballon trop rapidement aux Bulgares,
oui.
Qui remonte tout le terrain avant que Kostadinov transperce la cage de Bernard Lama à la 93e minute. La Bulgarie est aux USA, la France reste coincée porte d'Auteuil. Certes, David Ginola n'a pas bien joué le coup, il y avait quand même 9 autres joueurs de champ sur le terrain qui n'ont pas pu stopper la remontée bulgare. Nous, on est comme des cons. Hein. Cette campagne qualificative, c'est un immense gâchis. Tous les gens qui ont vu ce match s'en rappellent encore, comme le France-Allemagne de 82. Tous ceux qui étaient présents au stade en ce triste jour d'automne glacial s'en souviennent, hormis Younes, je vous ai menti, il dormait, hein, il s'était endormi évidemment. Au coup de sifflet final, chaque spectateur s'est tourné vers son voisin pour vérifier que ce qu'il avait vu était vrai, que ce n'était pas un cauchemar. Mais la triste réalité, les journalistes ont dû changer tous leurs papiers à la hâte. Ça, c'est plutôt drôle parce qu'évidemment, ils avaient tous prévu de parler de la qualification de la France. Alors, on a eu des beaux titres. Hein. On a eu le massacre des tuniques bleues pour West France. Le bruit assourdissant du silence. Ça, c'est un beau classique.
Très joli.
Très joli, oui. Ce soir-là, tout était surréaliste, tout a refait surface. Les guerres entre le PSG et l'OM, les conflits de tous les côtés.
Oui, oui. Guerre intestine.
Guerre intestine. Johnny a dû assurer l'animation d'une tombola post-match en faisant gagner un maillot de l'équipe de France. Aucun joueur de l'équipe de France n'est venu. Ça, c'est drôle. Il a dû faire ça tout seul.
Aïe.
Avec un animateur.
Ce France-Bulgarie comme France-Allemagne donc restera un vrai traumatisme. Mais paradoxalement, ça a aussi annoncé de très beaux jours pour les Bleus. Aimé Jacquet a repris l'équipe, il a fait des choix forts, il a volé vers les succès à l'Euro 96 avec une défaite honorable en demi-finale et bien sûr avec la Coupe du Monde 98. Oui. Vive la France et vive les Bleus.
Et moi j'ai envie de parler de mon match de foot que j'ai préféré, enfin qui m'a apporté
dans la vie,
le plus d'émotions parce que j'étais au stade, mais je crois que Thibaut y était aussi, on n'était pas ensemble, mais je crois que c'était France-Ukraine.
Ah, c'était dingue.
La qualification pour la Coupe du Monde avec au Brésil
avec Sako
ouais,
et Benzema, non ?
On a perdu 2-0 à l'aller contre l'Ukraine. Les gens qui me disent tu vas voir ce match, mais quelle dépression. Et franchement, enfin encore une fois, le Stade de France, il est pas réputé pour son ambiance.
Paraît-il.
Et là, on est entré dans le Stade de France. Le match a commencé. Il y avait une ambiance. Personne ne s'est assis pendant 90 minutes. On était debout on a poussé comme des dingues. Et en fait, genre c'était pas possible qu'on n'aille pas accrocher en fait la qualification. C'était fou.
Moi, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu en vrai.
En vrai, c'était mais.
Vous étiez le 12e homme.
Exactement.
Le fameux.
Merci beaucoup Thibaut.
Merci Thibaut.
Au bout de ce long épisode, mais on espère qu'il vous a plu. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, à écouter les autres podcasts de Fréquence Moderne.
Comme 20 minutes.
Thibaut.
Relire Tintin.
Oui.
Culture 2000.
20 minutes avant la fin du monde.
2 heures de perdu. Et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures.
Mais oui, peut-être.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt. With nine figures, real niggas fingers on nickel-plated non-triggers. Must see my enemies defeated. I catch them while they coked up and weeded open fire. Now them niggas bleeding. See me in flesh and test and get your chest blown. Straight out the west, don't get blown. My adversaries cry like hoes, open and shut like dope. Is you a friend or foe? Nigga, you ain't know. They got me stretched out on death row. I seen money, but baby, I got to get more. You screaming go to pop, and I ain't stopping till I'm well paid. Bills paid now, nigga, look what hell made. Visions of cops and sirens. Niggas open fire, bunch of thug life. Niggas on the ride until I die. Ask me why I'm a boss player getting high. And when I'm rolling by, niggas can't see me. The stairs of a million pairs of eyes, and you'll never realize. Be getting word that these square motherfuckers with nerves saying they can get with us, but picture me getting served. My own mama say I'm thugged out. My shit be popping out the record store as if it was a drug house. My lyrics bang like a crib of blood. Nigga, what? It ain't nothing but a party when we thug. And there I was, a young nigga with hump. Ain't had shit to lose. Pulling my pistol on the fools. You know the rules. D-R-E, you got me heated. My words like a penitentiary dick. Hitting bitches when it's most needed. Money and weed. Alizé and Hennessy. To my thug niggas in lockdown. Witness me, bail on these hoes and floss mode. The life of a boss player, fuck what you thought though. My enemies deceased, die like a bitch when my album hit the streets. Niggas can't see me. Dip, did it, did it, did. I'm all up in your face.